In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où toutes les semaines, on décrypte l'actualité du jeu vidéo, voilà, sous toutes ses formes, sur PC, sur console, sur mobile, un peu partout. Vous l'avez remarqué, j'essaye un peu de voilà d'imiter Patrick Béja dans son lancement, mais je ne suis pas Patrick Béja, je suis Jean-Clébert Loret. Alors, vous me connaissez peut-être si vous écoutez régulièrement le Rendez-vous Jeu, hein, j'interviens régulièrement. Mais voilà, Patrick m'a laissé les clés de la maison, le temps qui profite un peu de son enfant, qui l'aide un peu, évidemment, toute la famille et la maison, puisque vous le savez sans doute, il a eu un deuxième enfant. Donc du coup, j'ai l'honneur et un petit peu la pression quand même de présenter cette émission à sa place. Mais je sais que ça va très bien se passer, car j'ai aussi le plaisir d'avoir deux personnes de qualité, chacun dans leur domaine, pour m'accompagner dans cette émission. À commencer par Sophie Krupa. Bonjour. Salut Sophie.
Bonjour Jika.
Ça va. Surtout encore mieux. Voilà, quand j'entends ta voix, puisque je me sens un peu à la maison. Sophie, toi, le rendez-vous jeu, t'es pas intervenu très souvent, mais on t'entend souvent dans les podcasts que je fais à côté, notamment ZQSD, bien entendu. Donc merci déjà d'avoir accepté de venir en renfort pour cette émission, ça me fait plaisir.
Bah je t'en prie, moi au début tu m'as dit viens, c'est pour un ZQSD.
C'est ça, en fait au dernier moment je t'ai dit c'est le rendez-vous jeu, je dis bon t'avais signé, c'était trop tard. Et de l'autre, voilà. côté, on a un habitué pour le coup, lui, du rendez-vous jeu, c'est Daniel. Comment il t'appelle, Patrick? Daniel.
Je
vais t'appeler Daniel peut-être.
Et des fois par d'autres qualificatifs moins agréables.
Bon, alors je vais m'en tenir à Daniel, peut-être Dani de temps en temps. Toi, tu viens peut-être pas tous les mois, mais tu viens quand même régulièrement dans le rendez-vous jeu.
Ah si, tous les mois maintenant. Depuis le lancement de l'émission en hebdo.
Bon bah écoute, voilà, tu es à la maison, c'est cool.
Exact. Et je dois avouer que pour l'instant, tu t'en sors vachement mieux que Patrick, donc je pense que ça va être la meilleure émission que j'avais faite.
Mais tu sais que on le sait que le but de tout ça, c'est que Patrick prenne sa retraite, on va dire, de manière un peu anticipée pour que je le remplace, parce que étant donné.
Oh, pas vraiment anticipé, hein, tu sais, il est assez âgé. Il en a pas l'air comme ça.
Puis deux enfants, c'est du boulot. Hein.
Deux enfants, c'est du boulot.
Voilà. Puis avec les dizaines de milliers d'euros qui se fait tous les mois grâce au rendez-vous jeu, je veux dire, voilà, on peut bien prendre sa retraite quand même. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie. On a quand même un programme assez chargé, hein, parce que alors c'est pas une période en termes d'actu qui est incroyable, mais il y a plein de petits trucs. On va faire un sommaire très rapide. Hein. On a trois gros sujets, on va dire, puisque on va parler de l'alpha technique de Diablo 2 Resurrected qui a eu lieu la semaine dernière. J'ai eu le plaisir de pouvoir y passer pas mal de temps, donc je vais vous en parler. On va un peu débriefer aussi du Resident Evil Showcase qui a eu lieu également la semaine dernière, avec pas mal d'annonces autour de Resident Evil Village, bien entendu, mais aussi d'autres jeux. On va dérouler le Nintendo Indie World avec pas mal de jeux indés qui ont été présentés sur Switch. Il y a vraiment de tout à boire et à manger, des jeux qui sont déjà sortis, des jeux qui vont sortir. Vous allez voir, c'est assez complet, nos jeux du moment, et puis les news et rumeurs comme d'habitude. Si tout le monde est OK, je vous propose qu'on commence avec le premier sujet. Donc, je voulais vous parler de Diablo 2 Resurrected. Parce que Diablo 2 Resurrected, vous le savez sans doute, c'est un remake. Eux, ils appellent ça un remaster. Ils appellent ça un remaster, donc on va l'appeler remaster. C'est un remaster de Diablo 2, ce vénérable hack and slash qui est sorti en 2000 sur PC. Et là, en fait, ils font un remaster, et c'est-à-dire qu'ils refont visuellement, ils refont quasiment intégralement le jeu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une alpha technique, donc il y a quelques jours, où on avait accès pendant un gros week-end, on va dire, aux deux premiers actes en entier, hein, donc c'est quand même déjà pas mal de contenu, avec trois classes au choix, donc l'Amazone, le Barbare et la Sorcière, et j'ai eu le plaisir de pouvoir y accéder, et surtout j'ai eu le plaisir de retomber dedans de manière assez dure. J'y ai passé bien 20 bonnes heures sur cette alpha technique, et vraiment jusqu'au bout, en fait, j'y ai joué. Peut-être avant de dérouler mes impressions, Daniel et Sophie, Diablo, c'est une licence qui vous parle à quel niveau? Je sais que toi Sophie, c'est plus le 3 que tu connais, c'est ça?
Ouais, moi j'ai découvert avec le 3, j'ai passé beaucoup de temps dessus, notamment en multi avec les amis Walou et Whoopi.
C'est vrai.
Et j'avoue que pour une découverte, c'était pas mal et c'était intense. J'ai passé, comme un peu tout ce genre de jeu, j'y passe beaucoup de temps d'un coup. J'y joue pas forcément longtemps sur la durée, mais
ouais,
par contre,
ouais.
J'y ai consacré beaucoup d'heures très ramassé.
C'est-à-dire quoi, c'est genre les tu commences à jouer à 9h du matin, tu finis à 23h et tu comprends pas ce qui s'est passé, quoi.
C'est ça. C'est genre 20 heures par jour pendant 3 mois, puis après tu fais non mais j'arrête, c'est pas possible.
C'est l'overdose.
Mais donc ouais, moi, Diablo 3 m'a fait cet effet-là.
Ouais.
Et c'est vrai que quand il est sorti, Diablo 2 était déjà un peu vieux. Enfin, tu vois, quand t'as un nouvel épisode qui sort et que tu découvres à ce moment-là, c'est assez dur de retourner en arrière.
Ah bah oui, bien sûr.
Et là, je dois avouer que j'ai un peu le Spider-Sense qui a vibré quand j'ai entendu quoi ? Un remaster de Diablo 2 ? Voyons voir, qu'est-ce que c'est ? Et c'est tout à fait le genre de truc qui pourrait m'intéresser, effectivement.
Ouais, c'est clair, parce que, j'en parlais tout à l'heure, c'est une vraie remise à niveau, au moins technique. Toi, Dani, Diablo 2, par contre, c'est un jeu que t'avais pensé à l'époque ?
Alors, en fait, j'adore les hack and slash en général, donc le genre de jeu de Diablo 2. Ensuite, j'ai commencé par Diablo 1 il y a très très longtemps, que j'avais retourné dans tous les sens. Et Diablo 2, pour moi, c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai passé des centaines d'heures dessus. Mmh. Je pense que j'y ai joué jusqu'à ce que World of Warcraft sorte.
Ah, quand même. Ah oui.
Donc, ouais. J'ai beaucoup beaucoup joué.
Pas mal.
J'ai fait les ladders, j'ai joué avec mes potes. Et franchement, je suis curieux de voir, en fait, sans le côté nostalgie, ce que ça donne aujourd'hui par rapport à Diablo 3, justement, dont l'ergonomie et le facteur fun est pour moi très important.
Ouais.
Et voir, en fait, comment il a survécu à l'épreuve du temps, en fait.
Bah oui, c'est ça. Moi, je peux t'apporter un début de réponse. Je trouve que c'est un jeu qui a plutôt bien vieilli en termes de gameplay. Alors en fait, le truc qui va peut-être être un peu compliqué pour ceux qui sont habitués avec l'hack and slash moderne et notamment à Diablo 3, c'est la gestion de l'inventaire, ce genre de truc, parce que en fait c'est un inventaire qui est assez petit, et un détail tout bête, c'est que tu ne peux pas stacker d'objets, c'est-à-dire que tu peux pas empiler des potions. Donc chaque potion occupe un emplacement d'inventaire. Donc très vite,
laisse
en fait,
tomber. Tu m'as déjà lâché.
Non mais
est-ce que les pièces d'or prennent des cases aussi?
Non. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est que les pièces d'or ne prennent pas de cases, et surtout maintenant il y a une option pour ramasser automatiquement l'or. T'as plus besoin de cliquer à chaque fois sur ta petite pièce d'or.
Oh, alléluia. Ouais,
sur chaque pièce.
Ça, ouais, parce qu'avant fallait cliquer à chaque fois sur l'or que tu ramassais, c'était infernal. Là par défaut tu peux avoir le ramassage de l'or automatique qui est désactivable pour les puristes évidemment. Mais surtout là, c'est vrai que la gestion de l'inventaire, c'est quelque chose qui est assez aujourd'hui de revenir là-dedans. Bon, du coup ça implique beaucoup d'aller-retour en ville, ça implique une gestion de ton inventaire qui est un peu différente. Moi je sais que j'ai joué sorcière là pour la bêta, pour l'alpha, et la sorcière, tu consommes des potions de mana dans tous les sens notamment, donc c'est assez particulier. Mais par contre, au-delà de ça, ils ont fait un taf quand même en termes d'ergonomie, notamment ils ont rendu le jeu compatible manette. Et je suis le premier à être extrêmement agréablement surpris par le gameplay à la manette. Le jeu est extrêmement agréable à la manette. Alors je sais pas, Sophie, toi, Diablo 3, tu as joué clavier souris PC à l'époque ?
Ouais.
Parce qu'il a été adapté.
Tu cliques dans tous les sens, quoi. Ça se reconnaît, quelqu'un qui joue à Diablo, quoi.
Exactement.
Clic.
Et oui, complètement. Et Diablo 3, en fait, avait été adapté plutôt bien.
L'ergonomie sur Switch et PlayStation était plutôt bonne. Hein. Moi, j'ai joué aux trois versions, en fait. Beaucoup sur PC, pas mal sur PlayStation, un peu sur Switch. Et franchement, le jeu tourne bien.
Là, en fait, ils ont refait un peu la même chose, avec notamment ce qui est hyper pratique par rapport aux versions clavier souris, c'est chaque pouvoir peut être bindé, donc configuré sur une des touches du pad. Donc c'est beaucoup plus agréable de passer d'un pouvoir à l'autre, parce que à l'ancienne il faut d'abord sélectionner le pouvoir, puis faire un clic droit. Enfin c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je trouve que la maniabilité au pad est très bonne, et je trouve que d'une manière générale, les sensations de jeu sont vraiment extra. Les combats, les sensations de frappe quand tu tapes dans des ennemis, les pouvoirs, l'impact que tu as dans les pouvoirs, etc., dans tes sortilèges, est vraiment chouette. Mais pour moi, la vraie réussite qui est assez dingue, c'est effectivement visuellement. J'imagine que vous avez vu les trailers, vous avez peut-être vu des démos de gameplay, le taf qu'ils ont fait. Alors, c'est un jeu qui est développé par Vicarious Vision, qui est un studio qui avait fait les remasters de Crash Bandicoot et de Tony Hawk récemment, qui sont des portages très propres. Depuis, en fait, Vicarious Vision a été intégré à Blizzard depuis le début de l'année, donc c'est devenu un studio Blizzard. Et en fait, ils se sont attachés à respecter vraiment les environnements quasiment pixel par pixel. Ils ont refait intégralement tous les assets qui étaient en 2D à l'époque, enfin en 3D isométrique, mais en 2D, en 3D, mais ils le font d'une manière extrêmement cohérente et respectueuse. Et ce qui fait que moi, Diablo 2, c'est probablement un jeu que je préfère à Diablo 3, c'est juste qu'il y a une ambiance beaucoup plus dark, glauque, même assez violente. Il y a vraiment des moments où tu vas explorer des prisons, des salles de torture, t'as des trucs assez gore même, tu vois. Et avec une nouvelle réalisation, ça te prend vraiment à la gorge. T'as une ambiance hyper étouffante, hyper sombre, en fait, que moi, j'ai pas trop retrouvé dans Diablo 3. Je sais pas si vous, c'est pareil. Toi, Dani, qui a joué au 2, est-ce que l'ambiance de Diablo 3, de Diablo 2 par rapport au 3, enfin, lequel tu préfères, quoi?
Ouais, enfin, niveau ambiance, je préfère clairement le 2, et je pense qu'en fait le 3, à mon avis, vu qu'il est plus orienté, je sais pas, arcade, massacre en masse de monstres, tu ressens moins la pression de la difficulté du challenge, etc. Où tu me dis, oh, lui, je le tente ou pas, il a l'air dur. Parce que mais en fait, il faut signaler en fait que j'ai beaucoup joué à Diablo 2 en hardcore principalement.
Ah ouais.
Donc grosse pression, ouais. Et en plus à l'époque, donc ça, c'est une question que je voulais te poser, c'est est-ce si le multijoueur est activé, est-ce qu'il y a aussi le PVP sauvage qui est activé, où des fois il y a des mecs qui rentraient dans ta partie, ils se portaient sur toi, ils déclenchaient les enfers et t'avais des risques de mourir, et eux ils se tapaient et ils changeaient de jeu. Et ouais, c'était assez fun. Ça me mettait beaucoup de pression.
Ouais, tu m'étonnes. Bah alors, je pourrais pas te répondre parce que là c'était une bêta qui était unique pour solo. On pouvait pas jouer en multijoueur.
Ouais, d'accord.
On pouvait tester que du solo. Je sais que le multi ce sera jusqu'à 8 joueurs et il y aura du PVP. Mais alors, est-ce qu'il y aura les travers entre guillemets de ce que tu décris? Ça, je saurais pas le dire. Peut-être que ça a été dit, mais je t'avoue que j'ai pas l'info. Mais clairement, le multi sera une composante extrêmement importante du jeu. Donc ça c'est plutôt une chouette nouvelle, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en, tu vois, en termes d'ambiance, en termes de sensations, en termes de difficultés aussi, effectivement, même avec la sorcière, ou surtout au début, c'est un peu compliqué. T'as vraiment des moments où tu te dis, ouais, c'est un peu chaud quand même. Et moi, j'avais pas retrouvé ces sensations de hack and slash un peu à l'ancienne, en plus en termes de difficulté, depuis Diablo 2, en fait, même si j'ai joué à beaucoup de hack and slash. Et en fait, le manque d'ergonomie de certains trucs, comme donc les potions, etc., finalement, ça m'a pas gêné, parce que je trouve que ça fait partie de l'expérience. Et je pense, malgré tout, et tu vois, typiquement, Sophie, moi, je suis vraiment très curieux de voir ce que tu vas en penser. Est-ce que tu vas arriver à outrepasser ces petites contraintes d'interface pour te plonger dans le jeu? J'espère, en tout cas, parce que vraiment, c'est un super jeu, quoi.
Il faudrait que j'essaye, ouais. Parce que c'est vrai que quand on parle de remaster ou de remake, souvent ce qui saute le plus aux yeux, c'est les graphismes. Mais ouais, je t'avoue que c'est pas forcément ce qui me dérange le plus quand je joue à un vieux jeu. C'est vraiment plus tout ce qui est ergonomie et gameplay qui, pour moi, est vraiment plus important dans les sensations de jeu, quoi.
Ouais,
et
comprends.
Il suffit d'un... les graphismes peuvent être les plus beaux possibles. Si, au final, il y a une ergonomie relou, c'est quelque chose qui peut assez vite me faire décrocher, je t'avoue. Mais je suis complètement curieuse de voir ça, quoi.
Tu verras. C'est vrai que ils ont quand même amélioré quelques trucs. Je te dis notamment la mobilité au pad. Ils ont amélioré l'interface de gestion de...
C'est pas juste un polishing
c'est pas un polishing graphique. Par contre, ils ont vraiment pas touché l'équilibrage, ils ont pas touché les sensations de combat, ouais. Ils ont pas touché les pouvoirs et tout ça. Et ça tant mieux à la limite, hein, parce que c'est vrai que par exemple cette histoire de stacker des potions, est-ce que le jeu est pas sorti encore, l'alpha c'est justement là pour que les joueurs donnent leur retour.
Oui, peut-être que ça va être changé avant la sortie officielle.
Après, je pense que c'est...
Et ça se trouve, il y aura peut-être des modes de jeu aussi différents, ouais. Ou une ergonomie remise au goût du jour et une version pour les vieux de la vieille.
C'est ça, ils ont annoncé d'ailleurs que le jeu serait compatible avec les modes de Diablo 2. Alors, dans quelle mesure ils pourront peut-être pas tout rendre compatible, j'imagine. Parce qu'en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a une touche dans le jeu, qui est donc la touche G sur le clavier, qui permet de passer du jeu d'origine à la version remaster en temps réel. Et en fait, tu vois déjà le taf, évidemment, qui a été abattu. Et en fait, derrière, c'est le Diablo 2 d'origine qui tourne. Et en fait, ils ont rajouté une sorte de surcouche.
C'est une surcouche.
Par-dessus,
ouais.
En fait. Donc, c'est vraiment le Diablo 2 d'origine, à tel point. Et ça Dani, peut-être que ça va t'intéresser si que tes sauvegardes d'origine seront compatibles avec cette nouvelle version.
Ah, c'est ouf, ça.
Ouais.
Je sais pas si
t'as encore tes persos, tu pourras les rejouer dans la nouvelle version du jeu. Donc
ouais, c'est un taf assez incroyable, en fait, d'avoir réussi à faire ça,
ouais.
Quoi.
Franchement, c'est un taf incroyable parce qu'ils sont dans une démarche de restauration très respectueuse, tout en comprenant aussi qu'il y a certains trucs qu'il faut améliorer. Ils sont un numéro d'équilibriste, tu vois, vraiment, qui, a priori, de ce qu'on en a vu, est vraiment réussi. Et moi, ça m'a vraiment, enfin, voilà, je te dis, j'ai passé 20 heures dessus et j'en demandais encore. Donc voilà, j'étais extrêmement satisfait de ses premières impressions, et je sais que Patrick qui va nous écouter doit rager parce qu'il avait accès à l'alpha et il a pas eu le temps parce que il avait une femme qui était en train d'accoucher, donc et du coup il n'a pas pu y toucher, donc du coup voilà Patrick, si tu nous écoutes,
on sait déjà qu'il a un enfant préféré sur les deux, hein.
C'est peut-être ça. Bon, écoute, ça n'engage que toi, mais écoute peut-être. Donc je rappelle que ça sortira en 2021, sans pour le moment date précise. Il va y avoir au moins une deuxième alpha technique qui va se focaliser sur le multijoueur dans les mois à venir, pour le moment sans date de sortie. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement prometteur, et enfin je trouve que ça, enfin, je sais pas si vous a fait ça, mais enfin moi quand j'ai vu le trailer à la BlizzCon, j'étais très agréablement surpris, et du coup j'étais hyper hyper curieux, et je le suis d'autant plus après avoir joué au jeu, quoi.
J'ai vraiment hâte de l'essayer, d'y jouer, et je pense que Blizzard est en train de passer la barre très très haut, en fait, pour tout ce qui est remaster de jeux comme ça sortis en début des années
2000. Bah, c'est ça. Après,
c'est fantastique. Après, ouais, j'ai vraiment hâte de voir le produit final.
Ouais, c'est clair. Après, ça je l'ai pas dit, mais je pense aussi qu'ils ont tiré les leçons de l'échec de Warcraft Reforged. Enfin, mmh. Voilà, qui a eu beaucoup de soucis.
No comment.
Qui a été extrêmement critiqué, ouais. Etc. Et là, vraiment, de l'impression que j'en ai, c'est qu'ils s'attachent à faire exactement l'inverse, quoi. Ils ont vraiment listé tout ce qu'il allait pas, tout ce qu'il fallait pas faire, tout ce qu'il fallait plus faire, et ils essaient justement de ne pas le faire avec Diablo 2 Resurrected. Donc voilà. Moi aussi, j'ai très très hâte, et voilà. Donc rendez-vous d'ici, je pense, le maximum la fin de l'année, ou enfin en novembre, j'espère, pour qui s'annonce finalement comme le seul gros jeu Blizzard de 2021. Si je dis pas de bêtises, il y a pas d'autres jeux Blizzard là. Je crois qu'Overwatch 2 n'est même pas prévu pour cette année, je crois. Je sais pas si.
Non, il est pas prévu pour cette année. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je sais pas. Non, c'est tout.
Bah voilà.
Donc, mais on est d'accord qu'il y a des équipes qui bossent sur un Diablo 4 en ce moment.
Oui. Bah, Diablo 4, lui, il a été annoncé, bien sûr, mais bon, pour le moment, il a aucune date de sortie. Il y a encore beaucoup de travail, et voilà, je pense que clairement, il est aussi là pour. Enfin, Diablo 2 est aussi là
pour faire patienter un petit peu, ouais.
Bah,
ouais,
complètement. Voilà. Et ce sera vraiment, je pense, ce sera vraiment un bon palliatif, parce que, étant donné le contenu gargantuesque, hein, parce que je l'ai pas précisé, mais c'est Diablo 2 plus l'extension, donc 5 actes, 6, 7 personnages différents, voilà, avec du multi, etc. C'est typiquement le genre de jeu auquel tu peux jouer pendant presque 2 ans, et au moment où tu commences à te lasser vaguement de Diablo 2 Resurrected, il y a Diablo 4 qui va sortir, tu vois. Bon, on peut rêver, on peut peut-être imaginer ça, on verra. On verra bien, en tout cas.
Ça me semble optimiste sur la date de sortie de Diablo 4, mais on en reparlera dans 2 ans.
C'est vrai, Diablo 4 dans 2 ans, c'est moi aussi j'ai du mal à y croire, mais bon. Bon, si ça vous va, on va passer à un autre sujet. Alors, il y a eu aussi, donc, la semaine dernière, le showcase de Resident Evil, parce que Resident Evil, cette année, pour le coup, c'est vraiment 2021, c'est une année très Resident Evil. Alors, je dis ça, mais ça fait 3 ans de suite qu'il y en a un tous les ans, mais cette année, c'est quand même la sortie du 8e épisode, donc qui s'appelle Village. Qui va se passer en fait plus ou moins en Europe de l'Est, avec une ambiance très à la fois gothique, à la fois voilà, on sent qu'il y a quelque chose de très religieux. Enfin, moi je sais que j'aime beaucoup l'ambiance de ce qu'on me propose. En fait, il y a eu un showcase avec pas mal d'annonces autour du jeu. Je vais rapidement dérouler tout ce qui a été annoncé. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas, il y a quelque chose qu'on n'a pas eu, c'est qu'on a eu aucune nouvelle du remake de Resident Evil 4 qui a été confirmé, je crois. Donc évidemment, ils ont rien montré. Par contre, on a eu quand même Resident Evil 4 VR qui va arriver sur Oculus Quest, donc là attention, ça commence à faire un énième portage de Resident Evil 4, hein, qui est vraiment disponible maintenant sur toutes les plateformes. On a eu aussi une démo, alors on a voilà, ils ont annoncé qu'une démo jouable de 60 minutes allait être mise en ligne dans quelques temps, avec un accès anticipé. Alors attention, c'est compliqué, avec un accès anticipé sur PlayStation 5, c'est-à-dire que attendez, faut que je retrouve le planning, parce que
tu parles de Village là.
Ouais, de Village, oui, je parle de Village, pardon, ouais, je parle de Village. Alors, si vous avez une PS5, vous pouvez tester la démo. C'est trop tard, c'était ce week-end. Vous pouviez tester la démo pendant 30 minutes. Donc la première partie de la démo pendant 30 minutes. Ensuite, le 25 avril, pendant 24 heures, vous pouvez tester la deuxième partie de la démo. Donc ça, c'est pour les possesseurs de PlayStation 5, la démo de Village. Et ensuite, à partir du mois de mai, c'est-à-dire le 2 mai, voilà, à partir du 2 mai, sur Xbox et PC et PlayStation, vous pouvez tester la démo en entier. Donc donc 60 minutes de démo que vous pouvez explorer à la fois le village donc où se passe l'action et une partie du château. Donc ça c'était un peu les grosses annonces. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Typiquement le mode mercenariste pour Resident Evil Village, pour moi c'est un petit peu c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, je sais pas si vous ça vous fait rêver, mais c'est pas pour rappel, le mode mercenariste c'est une sorte de mode arcade en fait où vous enchaînez les combats, vous achetez du matos, etc. Bon, c'est vraiment accessoire, mais apparemment il y a des gens qui aiment. Et on a eu aussi des nouvelles de Resident Evil Infinite Darkness, qui est la première série animée en images de synthèse autour de Resident Evil, qui va sortir sur Netflix au mois de juillet, avec un trailer qui met en scène donc Léon et Claire Redfield. Ça se passe 2 ans après les événements de Resident Evil 4. Alors voilà, si vous aimez le lore de Resident Evil, là normalement vous devriez avoir pas mal de choses. Alors déjà, peut-être vous, est-ce que c'est un jeu que vous attendez? Est-ce que c'est une licence que vous aimez bien? Ou si c'est pas le cas, on passe directement au troisième sujet et puis voilà.
Bah moi, j'ai joué à tous les Resident Evil et Sophie.
Vas-y.
Sophie,
moi j'avais surtout joué au premier en fait, qui avait vraiment été une grosse claque pour moi sur PlayStation. Bien sûr. Et par contre, j'avoue que après c'est une licence que j'ai un peu laissé tomber quoi. Ouais. Par contre, j'ai toujours suivi d'un œil, on va dire. Mais là, j'avoue que je fais partie de ces personnes qui sont totalement tombées amoureuses de Lady Dimitrescu. Ah ouais. Donc la vampire de 3 mètres de haut qu'on voit dans les trailers, et que là d'un coup mon intérêt a été tout à fait piqué, et que c'est le premier Resident Evil là où moderne, on va dire, où l'ambiance vraiment me parle beaucoup plus quoi.
Ouais.
Là où ces derniers temps ça ressemble, enfin il y a eu tout un moment où c'était devenu plus des jeux d'horreur aventure plus que de
bien sûr,
enfin ça avait un peu changé,
plus que des survival,
ouais voilà, et ça me plaisait déjà vachement moins, tout ce qui était le 5, le 6, je sais plus trop.
C'est le 5 et le 6 qui étaient vraiment des espèces de... Le 6, c'était un nanar d'action, quoi. C'était vraiment le point de non-retour. Et heureusement, avec le 7, ils ont shifté à quelque chose de beaucoup plus ce que va être le 8, quoi.
Déjà, je t'avoue que le 7 m'avait déjà plus fait de l'œil. Enfin, j'ai plus regardé des gens jouer. Alors, c'est marrant, parce que Resident Evil, c'est typiquement le genre de jeu auquel, en vrai... je ne joue pas, mais je regarde les gens jouer. Parce que ça me terrifie, j'ai la trouille. Et je parlais du premier sur PlayStation, mais je ne l'avais pas fait en vrai. C'était un pote de lycée et moi, c'est lui qui avait la manette. Et moi, j'étais à côté en train de faire « attention, machin !» tout, truc insupportable. Par contre, j'étais super balèze pour résoudre les énigmes. Tu vois, genre à base, tu pousses la statue, tu prends le truc, tu machin. Et c'était vraiment le jeu qu'on avait fait à deux. Mais je suis totalement incapable de tenir la manette. Déjà parce qu'à l'époque, en plus, les commandes étaient tellement rigides que j'avais balancé le pad...
C'est clair.
Au bout de 5 minutes, on me dit qu'est-ce que c'est que cette merde.
ça contribuait pas mal à l'ambiance en fait.
La rigidité, c'est ça. Ouais. T'étais en panique et tout, mais vraiment, le jeu m'avait vraiment marqué. Et voilà, et cette ambiance-là, ce frisson-là, je trouvais que le 7 déjà me le rappelait un peu plus. Et là, le 8, ouais, carrément quoi.
Carrément. Ouais.
Mais du coup, je pense que je n'y jouerai pas. Mais du coup, peut-être qu'il faut que je retrouve sur Copain d'avance, copain du lycée, savoir s'il a envie de faire Resident Evil Village avec moi.
Non mais ouais, carrément. Mais c'est le genre de jeu qui est super agréable à suivre en vrai. Moi, je me rappelle aussi quand je jouais au 7, je le testais pour le taf et j'avais des collègues et tout qui ont regardé jouer parce qu'ils étaient vraiment à fond dedans, et ils étaient eux-mêmes, ils voulaient pas jouer parce que ça les faisait flipper. Toi Dani, tu disais que tu avais joué à tous les Resident Evil, donc tu connais bien.
J'ai joué à tous les Resident Evil, oui, et en gros, je suis totalement aligné en plus avec ce que disait Sophie, et tu vois, 5, 6, je les ai pas vraiment appréciés, je pense même pas les avoir terminés.
Ouais.
Et en fait, à un moment, je pense que le bestiaire est passé aussi dans un domaine qui me parle pas vraiment, c'est des sortes de gros monstres avec des tentacules très très japonais, mais qui font pas, pour moi ça fait pas vraiment peur, alors que finalement ce qui était flippant dans les monstres des premiers Resident Evil pour moi, c'était vraiment que c'est des trucs super simples. Dans le 2 par exemple, il y a l'alligator, le crocodile dans les c'est tout con hein, mais il était marquant comme boss. Et donc c'est aussi un peu là où j'ai arrêté le 7, c'est au moment où ça commençait à devenir un peu moins inquiétants en termes de monstres pour moi, donc les trucs à tentacules, les machins, les blobs, ça me parle pas du tout. Et donc j'espère que le 8, ils vont revenir sur leurs origines et vraiment avoir des humanoïdes mutants.
Bah, déjà avec le 7, tu l'as fait le 7 du coup?
J'en ai fait la moitié.
Ouais, je trouve qu'avec le 7, ils sont revenus à une formule déjà en termes de gameplay qui était vachement axée sur. Oui.
Le début est fantastique. Voilà,
et beaucoup de. Finalement, dans la deuxième partie, il y a plus de combats avec qui créent des monstres qui sont pas terribles, mais le début avec la famille, pour moi, c'est
incroyable. Voilà, c'est le meilleur passage.
Le 7, c'est vraiment c'est Massacre à la tronçonneuse, c'est du cinéma de genre,
c'est dommage.
Enfin, le premier boss, le premier boss dans le 7 était fantastique. La bagnole, le mec dans sa bagnole en train de.
Exactement.
C'était très original.
Exactement.
Et ça, j'aimerais justement qu'ils arrivent idéalement à pondre un Resident Evil 8 où ils arrivent à retrouver un peu cette ambiance où t'es pas forcément basé sur des monstres qui sont pas forcément parlants pour notre folklore à nous.
Peut-être parler rapidement de ça. Moi, j'ai testé la démo Village là, donc sur PS5.
Oui.
J'ai trouvé ça trop bien. Enfin, j'ai adoré. Alors, c'est 30 minutes, mais c'est assez court parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, etc. Déjà, en termes de réalisation. En termes d'ambiance, mais c'est je trouve ça absolument ma boule. C'est-à-dire quand t'arrives dans le village, t'as vraiment cette ambiance, c'est enneigé. Tu vois ce château gothique au loin. Il y a une église. Il y a une espèce de vieille dame un peu folle une prophétie, tu vois, qui dit vous allez tous mourir. Enfin, vraiment, t'es dans l'ambiance. Et il y a un taf sur les visages, les éclairages et des visages qui, en fait, moi à un moment donné, il y a une scène où de dialogue avec plusieurs personnages dans une espèce de salle éclairée avec une cheminée, j'avais l'impression d'être dans les peintures flamandes, ce genre d'éclairage. Ah, je te jure, c'est vraiment magnifique, quoi. Après, il y a des combats qui sont. Alors, on a vu des créatures qui ressemblaient plus à des espèces de loups-garous, je sais pas comment les appeler, qui étaient pas mal. Les combats, bon, sont assez classiques. Hein, ça va reprendre vraiment. Je pense que ça va reprendre la recette, de toute façon, du 7, hein, mélange d'exploration et de combat avec pas mal d'aller-retour, etc. Mais on n'a pas vu, notamment tu citais Lady Dimitrescu tout à l'heure, Sophie, on l'a pas encore vu parce que clairement on sent qu'ils vont capitaliser dessus. C'est vraiment la méchante de cet épisode, et j'ai l'impression qu'il y a un truc, autant le 7 avait quelque chose de très très crade, très série B d'horreur.
C'était très La Colline à des yeux.
Voilà,
quoi,
c'est ça. Voilà.
Massacre à la tronçonneuse.
Voilà, c'est exactement ça. Autant celui-là, tu sens qu'il y a une influence beaucoup plus gothique, beaucoup plus Dracula version Bram Stoker, tu vois. Ce genre de truc. Bon, c'est l'impression que j'en ai. Alors moi de toute façon les deux ambiances me parlent énormément, donc ça m'a vraiment bien plu. Donc c'est vrai que je vous encourage à tester la démo. Alors si vous avez une PS5, vous pouvez tester avant. Le jeu sort le 8 mai, si je dis pas de bêtises. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui. Est-ce que vous, par exemple, une série animée Resident Evil, par contre, ça vous intéresse ou...
Oh, je vais la regarder. Je vais pas dire que j'ai hâte, mais je vais lui laisser sa chance. Et pourquoi, en fait? Parce que j'ai regardé donc Castlevania sur Netflix.
Ah.
Et j'étais agréablement surpris, j'ai trouvé ça pas mal.
D'accord.
Donc voilà, je vais lui laisser une chance.
Okay, ben...
Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas.
C'est vrai que Netflix adapte pas mal de jeux vidéo en animé là, ces derniers temps, c'est un peu leur dada. Toi, Sophie, bof.
Ah bah tu vois, j'étais même pas au courant. Et bon, ça me bouleverse pas plus que ça, je t'avoue.
Non, mais en vrai,
peut-être que si je tombe dessus, pourquoi pas.
J'ai regardé la bande-annonce. Bon, le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup Resident Evil, mais le lore global, tu vois, genre l'espèce d'univers global qu'ils ont créé, bon, c'est
il est moyen.
C'est moyen, et puis c'est compliqué pour rien, tu vois. Donc bon, pas sûr, effectivement, de voir ça. Il y a ça. Bon, bah, j'avoue que Resident Evil 4 en VR sur Quest, sur l'Oculus Quest, moi, je suis plutôt chaud parce que je suis amateur à la fois de Resident Evil 4. Toi Dany, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est probablement dans le top 3 des meilleurs épisodes de la licence. Enfin, je sais pas, mais
c'est probable. Oui, je pense. Ouais, je suis d'accord.
Donc voilà.
Il était fantastique.
Et il joue en VR, donc il sera jouable à la première personne, hein, contrairement au Resident Evil 4 d'origine. On y jouera en à la première personne.
Jamais de la vie, un Resident Evil en VR. Jamais.
Ouais, mais alors tu sais que le 4 c'est probablement un épisode qui fait le moins peur. C'est plus vraiment un film d'action, mais ultra efficace, vraiment, avec une mise en scène de fou et tout, mais c'est moins un truc de trouille.
Il est stressant quand même, hein. Il y a des passages où t'as le gros là avec sa tronçonneuse ou alors l'assaut de la maison par les villageois. Écoute, en VR, je pense que non, il vaut mieux pas. Hein,
ouais, bon, d'accord, ok. Moi je suis quand même très curieux d'essayer de voir ce que ça peut donner.
Je pense que ça va être top. Ouais,
je pense que ça peut être au moins effectivement efficace. Faut voir si visuellement ça a pas trop pris cher parce que je pense qu'ils vont pas refaire le moteur. R4, c'était quand même sorti il y a je sais plus quand c'est sorti, mais ça commence à dater, quoi. Donc.
Mais la version PC n'était pas déjà un petit peu plus qualitative en termes de visuel, de graphisme, résolution, etc.
Voilà, c'était upscalé. T'avais juste un upscale, tu vois, pour pouvoir jouer sur un écran wide, etc. Donc là, ce sera pareil, j'imagine, sur le Quest, mais faudra voir. Ce sera pas un remake.
Il a peut-être pris un coup de vieux.
Ouais, on verra. Et peut-être dernier point un peu intéressant. Enfin, moi, c'est le côté un peu technique. Il y aura du ray tracing dans Resident Evil Village. Hein. Ils ont confirmé aussi bien sur PC que sur console. Donc le ray tracing, je rappelle, c'est une technologie d'éclairage, on va dire, plus avancée qui apporte quand même pas mal quand c'est bien fait dans le jeu. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du ray tracing aussi bien sur console que sur PC. Et en plus, ça impactera peu les performances puisque notamment sur console, tu pourras jouer en fait à un niveau de fluidité à très acceptable, on va dire, pas en 4K, mais en 1440p. Donc c'est la définition qui est entre le 1080p et la 4K. Donc c'est vraiment une définition tout à fait correcte pour jouer sur console. Donc ça va être pas mal et il faudra quand même une bonne carte graphique sur PC évidemment pour profiter du ray tracing. Mais c'est un jeu qui s'annonce techniquement en tout cas très très solide. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce showcase Resident Evil. Le mode Mercenaries, on en a pas parlé, mais je n'ai pas l'impression que ça vous botte tellement.
Non, moi je veux juste revenir quelques secondes sur Lady Dimitrescu.
Vas-y, ouais.
Je suis super contente de voir un personnage comme ça, vraiment.
Yes.
De déjà d'avoir un méchant ou une méchante en l'occurrence, mais les bons films comme ça, enfin les films, les jeux, les ambiances comme ça, ça marche quand t'as un bon méchant.
Ah bah oui,
et
oui.
C'est vrai que dans Resident Evil, à part comment il s'appelait dans le 3, Nemesis, enfin où t'avais comme ça un gros méchant marquant. Il y a pas vraiment trop de là d'avoir direct balancé une espèce de figure comme ça, le méchant ultime. Déjà j'aime bien le concept et le design est génial. Bah déjà d'avoir un personnage féminin dans ce genre de d'univers, c'est plus souvent Massacre à la tronçonneuse, l'adolescente qui se fait traîner par les cheveux et découpée en rondelles dans la cave, quoi, tout en hurlant. Et là, t'as cette espèce de vampire qui fait, je sais plus, 3,50 m, qui est plus toute jeune. En plus, on voit qu'elle est, c'est une femme d'un certain âge, d'une certaine carrure. Elle est gigantesque, elle a des épaules énormes. Elle est superbe. Le design est incroyable. Je t'assure, je suis totalement en pamoison devant ce personnage. J'espère vraiment que du coup le jeu et l'arc narratif et toute l'histoire tient la route autour, quoi. Mais je suis très contente de voir ce genre de personnage de méchante ultime comme ça, qui est pas juste, tu sais, la méchante sexy en bikini ou j'en sais rien, ou tu vois, pseudo femme fatale.
En fait,
elle dégage une puissance incroyable.
Exactement, ouais. Et je trouve qu'elle est sexualisée, mais d'une façon assez intéressante, puisque c'est un personnage qui est un peu qui semble complètement exubérant, tu vois, sorti d'un autre monde, parce que voilà. Et, et du coup, elle est hyper intéressante. Ouais, moi c'est pareil. Je trouve ça. Oh. Et en plus, apparemment, il y a pas qu'elle. Elle a des
ses filles, je crois que dans le jeu, ils appellent ses filles.
Voilà,
mais oui,
ses filles. Donc j'ai hâte de voir cette espèce d'ambiance.
Moi aussi.
J'espère juste qu'elle sera sobre en fait, parce que tu vois, tu pointais effectivement les méchantes en bikini en train de rigoler à la japonaise et machin. Moi ça me casse complètement en fait l'immersion dans le jeu. Et donc s'ils arrivent à en faire vraiment un méchant qui reste bien
d'attitude,
qui se tient et qui est pas ridicule.
Là ce qu'on en a vu, les quelques extraits qu'on en a vu, ça a l'air cool. Hein. On la voit justement quand elle est obligée de se pencher pour passer derrière les portes et elle chope les meubles à pleine main, elle te les jette comme ça. Waouh! Elle a des bras, des épaules, elle est musclée. D'avoir fait aussi un personnage féminin avec une musculature, elle est à la fois très, très féminine, très sexy dans ses vêtements et tout. Et même temps, elle a l'air d'avoir une musculature hors du commun. Et ça fait vraiment un mélange très puissant. L'aime beaucoup.
Mais justement, ça, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un boulot d'une manière générale de ce que j'en ai vu dans la démo, notamment sur les visages, les expressions, les animations des personnages qui est vraiment excellent et qui maîtrise vraiment ils maîtrisent vraiment leur moteur là, et justement avec un personnage, un méchant comme ça, ça va, une méchante comme ça,
ouais,
c'est vraiment le tout leur savoir-faire en matière de, ouais, de création virtuelle de personnages, quoi. Donc
ouais, ouais.
Donc voilà, on a hâte, ça sort le 7 mai, ouais, le 7 mai, donc c'est bientôt
idéal pour le week-end,
ouais,
du
ça va être, ça, va être, bah ouais, ça va être parfait. Allez, on va passer au troisième sujet, le Nintendo Indie World. Alors Nintendo, ils ont l'habitude, hein, de nous sortir des soit des Nintendo Direct, soit des Nintendo Indie World, à chaque fois c'est toujours la veille pour le lendemain, genre ah bah voilà, il y en a un demain, bon bah ok, on va devoir bosser, c'est parti. Là cette fois-ci, donc c'était un Nintendo Indie World, j'ai déjà dit, donc ils font ça souvent, donc c'est uniquement c'est focus sur les jeux indépendants de la Switch. Cette fois-ci, il y en a eu quand même pas mal, hein, il y a eu 22 jeux qui ont été évoqués. Alors voilà, souvent c'est une succession de trailers, mais on a toujours pour son argent, entre guillemets, quoi. Évidemment ça devient une blague, hein. On attend toujours des nouvelles du prochain épisode de Hollow Knight à chaque fois. Je sais que avec les collègues au boulot, on attend toujours Hollow Knight, la suite de Hollow Knight, on la voit jamais arriver, mais c'est pas grave. Alors on va pas dérouler les 22 jeux parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais quand même vous les citer, citer tous les jeux qu'il y a, et voilà, vous allez me dire s'il y a des jeux qui vous intéressent, qui vous marquent, etc. Alors le premier, c'est Road 96. On a eu Never Yield, on a eu Labyrinth City, Wave in Tide, Last Stop, Insight, The Longing, qui lui est déjà disponible sur PC et qui est dispo déjà sur Switch, There Is No Game, Wrong Dimension, un jeu français, Fez, qui est pareil, un classique du jeu indépendant qui est arrivé sur Switch, Ender Lilies, Beast of Maravilla Island, Crystals, Skull the Hero Slayer, Art of Rally, un jeu de rally, oui, ça voilà, Kiwi, Aztec Forgotten Gods, Holy Holy World, donc la suite du jeu de skateboard, House of the Dead Remake, voilà, s'y porte bien, j'aurais pas besoin d'en dire beaucoup plus, Oxenfree 2, qui était un peu la grosse annonce, je trouve, en termes de jeu indé, Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder's Revenge, et Getsu, excusez-moi, j'ai probablement mal le prononcé, Getsu Fumaden Undying Moon. Voilà.
On sait maintenant que ton accent japonais est encore pire que ton accent anglais.
Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Alors, peut-être, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez suivi un petit peu, est-ce que vous avez regardé cette liste de jeux? Parce que, ouais, d'une manière générale, la Switch, bon, on aime beaucoup la Switch, j'imagine, autour dans cette émission, et pour les jeux Nintendo, mais aussi pour les jeux indés. Pour moi, c'est devenu la machine à jeux indés ultime, la Switch.
Super Sophie, console pour les jeux indés. Super console pour les jeux indés,
carrément.
La Switch.
Toi, Sophie, vas-y.
Bah, je disais, non, je veux juste, à la maison, bah, j'ai une Switch et mon fils a une Switch Lite.
Ouais.
Et elles sont blindées de jeux indés, les deux consoles, quoi. C'est trop
clair.
Bien.
Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont un peu fait de l'œil, Sophie, là-dedans, toi?
Ouais, bah, après, bah, il y a des jeux que j'adore dans cette liste auxquels j'ai déjà joué sur PC. Bah, The Longing, déjà, qui est un jeu assez incroyable. Et d'ailleurs, en revoyant des images, ça m'a fait pleurer parce que ça m'a fait penser que mon petit bonhomme, ça fait, bah, à mon avis, plus de 400 jours qu'il attend. Parce qu'on rappelle que c'est un jeu qui se passe
en
temps réel.
Il faut expliquer
où on joue un petit personnage qui est un petit troll qui vit dans un sous-sol, et il y a un roi, il est au service d'un roi qui est énorme et qui s'endort, et le roi lui dit tu me réveilleras dans 400 jours, et ce sont 400 jours réels, donc un petit peu plus d'une année, et toi pendant ce temps-là, ton petit bonhomme, bah, il fait un peu sa vie et t'attends. C'est un jeu où il faut attendre, il y a plusieurs fins possibles, des bonnes et des mauvaises, et là, vraie fin entre guillemets, bah c'est au bout de 400 jours, le roi se réveille, et je t'avoue que bah j'ai pas relancé le jeu parce que là j'ai très peur, et à mon avis mon petit bonhomme, ça fait plus d'un an qu'il attend tout seul dans le noir, il me fait de la peine,
ouais.
Et je suis encore dans le déni en train de faire oula. Mais non, c'est un jeu très spécial et un jeu que j'aime beaucoup, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont le découvrir. Un autre jeu qui pour moi est un de mes meilleurs jeux de tous les temps, enfin, il s'est glissé directement dans le top de mes jeux, c'est There Is No Game, Wrong Dimension.
Ah,
je
oui.
L'adore, c'est un jeu génial. Tu disais, c'est un jeu français.
C'est ça, oui.
Qui est un hommage aux jeux vidéo en général. C'est vrai que j'ai tendance à me méfier un peu des jeux qui reposent sur les clins d'œil, les références, la culture geek, machin. C'est pas toujours bien fait. Celui-là, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais.
C'est vraiment... on joue le jeu est conscient d'être un jeu. Alors ça aussi c'est très casse-gueule, hein, les trucs très méta, ah bah ça oui, peut oui. très vite être complètement raté. Là c'est extrêmement bien réussi, c'est très touchant et il faut vraiment le faire jusqu'au bout en plus parce que c'est un jeu qui se renouvelle sans cesse. Ça commence comme une espèce de petite parodie de jeu. Il y a un passage point and click à la LucasArts, il y a un passage à la Zelda. Alors c'est très rigolo juste dans ces parodies de jeux. C'est très rigolo et au fur et à mesure, il y a vraiment un lore qui se détache et une histoire qui se raconte. Et à la fin, j'ai pleuré, les enfants, moi. C'était très, ah ouais très bien.
Ah d'accord.
Ah ouais, c'est hyper touchant à la fin et tout, quoi. Mais c'est un excellent jeu.
Alors, je dis une bêtise, mais c'est la suite de There Is No Game ou c'est il y a un seul jeu There Is No Game? Il me semblait qu'il y avait déjà
There Is No Game, au début, c'était un jeu de... comment on appelle ça?
D'aventure.
De jam.
De jam, ah oui, c'est un jeu de game jam.
Non, c'est un jeu de game jam qui a eu son petit succès. Et du coup, là, il a été développé en version longue, on va dire.
D'accord.
En version étoffée. Mmh. Et voilà, c'était déjà juste rigolo, ce que je disais, hein, le petit jeu de départ. Et là, ça a vraiment pris une dimension, sans jeu de mots, qui est vraiment excellente. C'est vraiment un jeu à part entière, c'est pas juste une blague, quoi. C'est un très, très bon jeu.
Ah, okay,
et cool, sinon, ouais, vraiment, je conseille. Et sinon, dans les autres annonces, moi, qui m'ont plu, bah, alors, très, franchement, House of the Dead Remake, je suis au taquet.
Ouais,
j'adore.
Ouais, bon,
j'adore House
aussi,
of the Dead.
Si bon.
Je disais tout à l'heure que les Resident Evil, j'arrivais pas à y jouer parce que faut tenir la manette et que ça fout la trouille. House of the Dead, pour moi, c'est exactement l'inverse.
Ah bah oui.
C'est-à-dire, ça fait pas peur, c'est juste pour rigoler. J'aime beaucoup les rail shooters, à vrai dire. Mmh. J'ai un peu ce goût des jeux arcade et
qu'est-ce que tu penses de l'ergonomie en fait? Parce qu'en fait, c'est un jeu fait pour être joué au pistolet. Et moi, je me demande en fait comment ça va se jouer,
moi aussi.
Surtout en multi.
Moi aussi.
Ça me fait un peu peur en fait.
Ouais, je pense. Il y a de grandes chances que ça soit raté, oui. Mais j'ai trop hâte de voir un peu. Moi, par exemple, sur Wii, il y avait un. Comment il s'appelait
Il y avait House of the Dead Overkill.
Il y avait un House of the Dead Overkill. J'avais adoré et ça se jouait à la Wiimote, quoi, avec le pistolet.
C'était
génial.
Le truc, c'est que sur Wii, ils avaient sorti un adaptateur où tu pouvais mettre ta Wiimote dans une espèce de flingue. Là, je ne sais pas s'ils peuvent le faire avec les Joy-Con, parce que les Joy-Con peuvent vaguement servir de viseur.
Ils vont le faire, ils vont forcément nous sortir un accessoire.
Ouais, j'imagine. Par contre, en mode portable, si on joue au stick, ça risque d'être un peu.
Ah, ça va être affreux.
Ouais,
mais enfin, bon.
En tout cas, il faut que je vous avoue un truc. C'est, à l'époque, je bossais chez Nintendo et on jouait dessus sur Dreamcast tous les jours, quasiment pendant notre pause déjeuner.
Non mais
bien sûr. Non mais c'est
génial,
hyper mémorable.
C'est vrai que
c'est
mais...
vraiment du jeu popcorn.
C'est de l'arcade pure là.
C'est extrêmement drôle, quoi.
Après, dans ce qu'on en a vu dans le petit trailer, on voit quand même que le jeu, il s'appelle Remake pour pas pour rien, parce que le jeu a vraiment été refait au niveau du moteur. Alors c'est pas incroyable visuellement, mais il y a quelque chose de propre. Et par contre, c'est de la série.
Oh, il y a pas de ray tracing. Hein,
non, je pense pas qu'il y ait du ray tracing. C'est de la série Z, par contre, de ouf. Hein, ça a toujours été de la grosse
tant
série
Z. Tant
qu'ils
ont gardé les dialogues et l'écriture, c'est fantastique.
Oui, je pense que ça là-dessus, il y aura pas de souci.
Ça, j'avoue, c'est complètement ma cam. Donc à voir effectivement si le truc qui va autour, mais si ça peut renouveler un peu petite expérience arcade, je fonce dessus. Alors, comme tu disais, grosse annonce, moi je m'y attendais pas du tout. Oxenfree 2, j'ai adoré le premier, vraiment
le premier, ouais.
Très beau jeu, ouais, très beau jeu, très touchant. Le 2, il a l'air d'être dans la même lignée. Je suis super contente, j'ai très très hâte.
On va voir justement.
Et puis je t'avoue,
je vais juste repitcher peut-être le 1.
Vas-y.
En fait, Oxenfree, c'était un jeu de. C'était même pas un jeu d'aventure, c'est un jeu narratif.
C'est un jeu narratif.
Voilà, il y avait quasiment pas de difficulté, donc on était sur une sorte de plan en 2D et on explorait avec un groupe d'amis une île bizarre où il y avait des phénomènes étranges. Et ce qui était assez cool, c'est que c'est un jeu très écrit, donc énormément de dialogues. Et donc t'avais constamment des choix de réponses que tu pouvais faire, mais en temps limité. C'est-à-dire que tu pouvais participer aux discussions en appuyant sur telle touche de la manette ou pas, et pour influer en fait le ton de la discussion, faire quelques choix par moment, mais c'est un jeu très très narratif. Et je pense que Oxenfree 2 va évidemment prendre la même direction, mais ouais, c'est une bonne nouvelle.
Alors apparemment, c'est dans le même univers, avec certains mêmes personnages, ça se passe quelques années plus tard.
Ouais, voilà. C'est ça. Et alors, je crois qu'elle rentre en fait, on incarne toujours le même personnage, donc je sais plus comment elle s'appelle.
Ouais.
Je sais plus comment elle s'appelait.
L'héroïne, je sais plus non plus.
Ouais. Donc ça a l'air cool. Et il y avait un dernier jeu, tu disais?
Les Tortues Ninja. Ouais. Ça reprend le classique jeu Tortue Ninja, comme on se souvient tous, ouais, en beat'em all.
C'est un remaster, de toute façon, de la version arcade qui est sortie.
Je crois que c'est un nouveau.
Il ressemble énormément au jeu de Konami sorti en arcade. Ça a l'air d'être le. Waouh.
Ça a l'air d'être la suite, quoi. C'est la revanche de Shredder. Et là, j'avoue, pareil, dans le genre de jeu, comme ça, tu prends une manette et tu joues avec les copains. L'ADA a l'air cool. Là, j'avoue que j'ai envie d'y jouer. J'espère qu'il sera moins. Avec la maniabilité moderne, quoi.
Ouais, je pense, parce que c'est géré par Dotemu qui avait déjà taffé sur Street of Rage 4. Et d'ailleurs, moi, je m'attendais un peu, même visuellement, alors c'est très mignon, mais je m'attendais pas à une réalisation en pixel art. Je m'attendais plus à un truc à la Street of Rage 4, justement, un truc un peu plus bien dessiné, comics, etc. Pourquoi pas, je suis très curieux. Après, moi, c'est pas un jeu auquel j'avais joué à l'époque. Alors, sur Super Nintendo, il y a eu un Beat'em All, mais je sais pas si c'est le même exactement que la version arcade, mais pourquoi pas, faut voir. Donc, ça. Dany, enfin, au moins que Sophie, t'avais d'autres jeux, passe la parole. Daniel, toi, t'as à peu près la même sélection ou y avait d'autres jeux
Il y en avait trois que j'avais retenu dans la liste qui me parlaient le plus. Donc, effectivement, la sélection de Sophie, elle est top, hein, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Moi, la seule différence en fait que j'aurais avec Sophie, c'est aussi House of the Dead et Teenage Mutant Ninja Turtles, c'est les jeux qui me parlent le plus, sans doute parce que c'est le côté nostalgique.
Parce qu'on est vieux,
vous non, vous êtes jeune, mais moi,
on est vieux aussi. Hein.
et Getsu Fumaden, en fait, il m'a bien interpellé pour sa patte graphique. Et je l'ai trouvé vraiment très ça me parle, c'est très très beau. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait en termes de gameplay, de jeu, mais je l'essaierai bien.
D'accord, ok, écoute, cool. C'est vrai que
t'as pas l'air convaincu.
Si, mais je t'avoue que je me souviens plus à quoi ça ressemble. Attends, je regarde.
Ça ressemble beaucoup en fait à des estampes.
Oui, c'est ça. Et c'est un hack and slash.
Une estampe japonaise animée.
Ah oui, et c'est un hack and slash avec des composantes de roguelite, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, visuellement, c'est très très. Ouais, ça a une gueule assez cool. Et d'ailleurs, ce qui ressort un peu de cette sélection, quand tu regardes tous les trailers, c'est que pour une fois, il y a assez peu de pixel art. À part effectivement Tortue Ninja et un autre jeu comme ça d'action. Il y a quand même, tu sens qu'il y a un taf. Alors, il y a beaucoup de jeux en 2D, mais il y a un vrai taf pour donner une vraie direction artistique. Alors, j'adore le pixel art, mais tu vois, pour changer un peu du pixel art, et c'est chouette. Et il y a une variété de jeux. Enfin, tu vois, moi, par exemple, je voulais citer Road 96, qui me rappelle un peu Firewatch dans son ambiance, avec côté, c'est un road trip à travers les États-Unis où tu rencontres des gens, tu discutes, etc. Ça peut être assez chouette. Fez, bon, c'est un classique, hein, mais moi, j'y ai pas joué à l'époque, et apparemment, c'est un jeu génial, et je me dis que là, parce qu'à la base il était sorti sur PlayStation Vita et sur PC aussi, bien sûr, mais là en tout cas en version portable il était dispo que sur Vita, donc c'est peut-être l'occasion de le faire ou de le refaire pour ceux qui l'ont déjà fait, mais je crois que je vais me laisser tenter par Fez, parce que c'est quand même un classique que j'ai pas fait, grosse sélection. On voit toujours que la Switch c'est la console des jeux indés, hein, définitivement. C'est assez fou.
Souvent aussi des promos. Enfin, ils mettent beaucoup le paquet dessus aussi, Nintendo, dans leur shop. Ouais. C'est assez nouveau, hein, de la part de Nintendo. Ouais, déjà d'avoir un shop. Bravo à eux pour avoir découvert ça 10 ans après tout le monde. Là, vraiment, la Switch, c'est d'avoir une Switch Lite pour les gens qui aiment jouer juste en portable. Et toute la sélection de jeux indés qu'il y a dessus, même sans être un gros Nintendo fan, je trouve ça formidable comme console, quoi. Vraiment. Et en plus, quand on est Nintendo fan, évidemment.
Je pense en plus que l'avantage en fait de travailler main dans la main comme ça avec autant d'indies, c'est que ça permet d'avoir en fait pas mal de lancements et de sorties de jeux dans des périodes de creux.
Pendant
Metroid 5.
C'est ça, mais Nintendo, ils sont connus pour leur grosse licence, mais il n'y en a pas un qui sort tous les 3 mois non plus, quoi. Non. Et là, ce qui fait que c'est hyper complémentaire finalement comme contenu.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ouais, carrément. C'est vrai que ça, c'est vraiment le. Ils ont trouvé la bonne formule entre eux, effectivement sortir deux trois gros jeux par an, parce que finalement ils ont produit pas plus, et arriver à occuper le terrain avec des jeux indés, et qui a priori, ça a d'être un bon deal sur parce que les gens achètent des jeux indés sur Switch en fait.
Bah, et puis vu le parc de Switch installé maintenant, parce que là il faut dire que c'est bon. La Switch, c'est quand même une console qui se vend extrêmement bien. Pour un indé, c'est hyper intéressant d'être mis en avant sur le shop Nintendo.
C'est clair.
Et il y a moins de concurrence aussi avec les AAA, parce qu'ils ne sortent pas toutes les 3 semaines.
Et ils ne sont pas en concurrence avec les AAA. Je pense que c'est un bon deal pour tout le monde.
C'est clair.
Pour nous, les utilisateurs.
Et pour nous.
C'est clair. Bon, en tout cas, on va peut-être refermer là ce segment sur les Nintendo Indie World. Avant de passer à la suite, je vais faire un petit point parce que voilà, un point réglementaire, j'ai pas le choix. Pour parler du Patreon de Patrick, du rendez-vous jeu. Si vous voulez soutenir les podcasts de Patrick, donc le rendez-vous jeu, le rendez-vous tech notamment, allez, n'hésitez pas à aller sur Patreon, le rendez-vous jeu. Il y a des remerciements à faire. Alors, on va remercier les gens qui donnent des sous sur le Patreon. Donc, on remercie Ocheva, on remercie Arnaud Descou, on remercie Zid Gwadi, on remercie Océane Wanek, on remercie Doha et on remercie Romain Gilles, ainsi que le producteur Johan Journé. Voilà. On va peut-être du coup passer à la suite de l'émission. Qui sont nos jeux du moment? Alors, nos jeux du moment, petite sélection, voilà. À quoi vous jouez en ce moment, que ce soit des jeux récents ou pas. On va donner la parole. On va continuer avec Sophie. De toute façon, t'es noté en premier dans le conducteur. Donc, je t'en prie, Sophie. à quoi joues-tu en ce moment?
En ce moment, j'ai deux petits jeux sur lesquels je passe beaucoup de temps. Le premier, c'est Dorf Romantique. Il faisait partie des jeux qui étaient en démo pendant le démo Steam Festival d'il y a un mois ou deux là. C'est un jeu où la démo m'avait vachement plu. Le jeu est sorti, je crois que maintenant non, il est en early access maintenant sur Steam. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu comme les jeux de société allemands. D'ailleurs, c'est un jeu vidéo allemand, hein, ça n'étonne personne. C'est ils sont très les jeux de société.
Ah bah oui, c'est
vraiment une culture là-bas,
évidemment.
C'est une spécialité. Mmh. Et donc là, c'est vraiment un jeu de placement de tuiles, tout simplement, où t'as des tuiles. Alors par exemple, je vais essayer d'être concrète. Tu as des tuiles qui représentent des champs, des maisons, des chemins de fer, des forêts, tu vois, ce genre de choses. Et comme des dominos, d'ailleurs, il y a un jeu de société pour enfants qui s'appelle King Domino, qui marche beaucoup pour les enfants. C'est pour les gens qui connaissent, c'est King Domino en jeu vidéo. Et donc, tu dois faire le plus de points possible en plaçant tes tuiles comme ça, au fur et à mesure. Donc, tu as ton deck, tu choisis pas ton deck. Hein, les tuiles, tu les as au fur et à mesure, tu les découvres et tu essayes de les placer. Tu as des petits objectifs où on te demande, essaye de faire une forêt qui fait tant de tuiles, essaye de faire un champ qui fait tant de tuiles. Tu as des objectifs comme ça et au fur et à mesure, tu débloques des nouvelles tuiles. Une espèce de puzzle game comme ça, c'est incroyable. C'est hyper chill. La DA est toute mignonne. C'est d'un reposant et en même temps il y a un petit challenge, c'est parfait. Donc pour l'instant c'est toujours en early access et prévu pour plus tard un mode bac à sable, donc j'imagine sans objectif, purement décoratif on va dire. Et puis j'imagine d'autres nouvelles tuiles, c'est très très agréable.
D'accord.
Et je voulais juste parler vite fait d'un autre jeu.
Yes.
Qui s'appelle Cozy Grove. Qui est une sorte, toujours sur PC, une sorte, on a beaucoup dit, une sorte d'Animal Crossing, mais avec des fantômes.
Ah, ok. Pourquoi pas.
Tu joues un petit, alors c'est une DA très aquarelle. Tu joues un petit personnage, un petit scout qui débarque sur une île et tu te rends compte que cette île est habitée par des fantômes ours. Et toi, tu as la capacité de leur parler et il va s'agir de leur rendre des services. C'est beaucoup trouver des choses sur l'île, ramasser des éléments pour fabriquer. Il y a un peu de craft, un peu de déco, un peu comme t'imagines, un peu comme Animal Crossing, quoi. Et c'est pareil, une fois que tu as fini tes tâches de la journée, il faut attendre le lendemain en jour réel pour avoir des nouvelles tâches. C'est très mignon, c'est très joli. Et puis, bah, écoute, je trouve que voilà, en ces moments un petit peu parfois anxiogènes de la vie, se détendre sur ce genre de petits jeux tout mignons, bah, moi, ça me fait beaucoup de bien. Voilà.
D'accord, le jeu Feel Good à la Animal Crossing. Donc, tous les deux dispo sur PC, sur console ouais. aussi ou pas, tu sais pas?
Oula, je sais pas, parce que je n'ai pas bien fait mon travail.
C'est pas grave. Bon, bah, en tout cas, oui, de toute façon, vous tapez. Alors, d'offre romantique, je précise, ça s'écrit D-O-R-R-O-M-A-N-T-I-K.
Alors, d'offre. Dorf, comme, ça veut dire village en allemand, et romantique.
Voilà, voilà. Mais voilà, romantique avec un carré.
Dorf romantique en un seul mot, et puis Cozy Grove avec un Z à Cozy. Voilà, pas comme les copains du Cozy Corner.
C'est ça, il y a des petits pièges. Daniel, à quoi tu joues en ce moment?
Alors, si on met de côté World of Warcraft, qui est quand même un investissement en temps toujours conséquent pour moi, Ghosts and Goblins Remastered. Et donc, on en a déjà parlé avec Patrick, je crois que c'est dans l'épisode de janvier ou février, un peu avant la sortie du jeu. J'y joue encore maintenant, il est très sympa, il est... Je pense qu'il est plus difficile que les jeux d'origine dont il s'inspire, mais le remaster est excellent à mon avis parce qu'il reprend une sélection de niveaux.
Oui. Il est plus difficile. Oui. Le remaster est plus difficile que le jeu d'origine.
Ouais.
Mais comment c'est possible?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, peut pas jouer donc.
C'était déjà infernal. Ouais.
Il faut être motivé. Alors. En fait, pour vous expliquer le procédé, j'ai joué à Remaster, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, j'ai dû perdre le coup de main. J'ai téléchargé en fait sur Switch, il y avait une version Capcom Arcade où ils donnaient Ghosts and Goblins, le jeu d'origine. J'ai passé les deux premiers niveaux en perdant peut-être une vie. Alors que Ghosts and Goblins, pour passer un niveau dans le remaster, c'était la croix et la bannière. Et ensuite, d'accord, j'ai découvert qu'on pouvait jouer à deux dans le remaster. Mm-hmm. Et donc, avec ma compagne, elle joue une sorte de fantôme qui t'aide en fait pendant la partie, et ça facilite grandement la progression. Mais il est très, très, très difficile.
D'accord. Par contre, je crois qu'il y a des options, on va dire, d'accessibilité, mais est-ce qu'il n'y a pas des options de vie infinie. Ce genre de truc, tu vois?
Il y a les vies infinies, donc pour ça, ça va. Mais t'as des passages, en fait, contrairement à l'ancien, enfin aussi, ça existait aussi dans l'ancien, t'as des drapeaux, en fait, à certains points dans le niveau où quand tu meurs à cet endroit-là, tu reviens. Donc t'as les vies infinies, tu reviens autant de fois que tu veux, mais il y a des endroits où je suis mort, peut-être pour passer d'un drapeau à l'autre, des dizaines de fois.
Ouais, d'accord.
C'est même plus du die and retry, là, c'est du die and die and die.
Ouais, c'est
and
juste
die.
Du dur. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont bien gardé l'ergonomie du jeu d'origine. Et donc, en gros, ton personnage, bah, c'est un chevalier en armure. Et bah, quand il saute pas, il n'est pas très, très maniable, hein, c'est pas Mario. Et donc, c'est ça qui ajoute une grande difficulté au jeu, sans compter que bah, les vagues d'ennemis qui pop aléatoirement, tu peux pas essayer de les mémoriser pour te dire alors là, il y a un ennemi, etc. Non, c'est en général, ils sont assez aléatoires. Et il y a des ennemis qui sont d'une difficulté extrême, comme dans l'original, il y avait les sortes de démons rouges qui évitaient quasiment toutes tes attaques. Bah, là, ils sont encore là et ils sont encore plus difficiles qu'avant. Ils anticipent toutes tes attaques, etc. Il faut jouer vraiment avec des réflexes que j'ai dû perdre ou au pouillème de seconde pour y arriver. Mais il y a un sentiment d'accomplissement. Et ce que j'aime en fait dans ce remaster, c'est qu'ils ont pris donc une sélection des niveaux de Ghouls and Ghosts et de Ghosts and Goblins, donc les deux premiers de la série, et ils les ont réadaptés, remasterisés complètement. Et la façon dont les deux se combinent est vraiment super sympa.
D'accord.
Par contre, il y a vraiment des différences énormes de difficulté entre les différents niveaux dans le parcours, et ça peut aller du tout au tout. Hein. La fin du jeu est assez facile, contrairement au début.
La fin du jeu est plus facile que le début. C'est vraiment pour te décourager.
Il y a toujours les musiques.
Ouais.
Oui, et il y a les musiques remasterisées pour pas mal de niveaux. Du jeu d'origine, on reconnaît les thèmes qui sont très sympas.
D'accord, ok. Bah, écoute, ça se tente si vous avez envie de vous faire mal. Après, ça peut être intéressant. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais réussi, évidemment, à passer deux niveaux de Ghosts and Goblins. Je sais pas si c'est pour moi, mais je comprends la démarche.
À deux, c'est sympa. À deux, c'est sympa. Ouais. Et si vous avez quelqu'un avec qui jouer, ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup le jeu.
D'accord, ok. Écoute, moi, je vais rester aussi dans des trucs un peu à l'ancienne, hein, mais même si c'est un nouveau jeu, je vais vous parler d'un jeu. Alors, je crois que dans le dernier rendez-vous jeu, ils ont parlé d'Apple Arcade, et qui avait sorti pas mal de nouveaux jeux récemment. Il y a une fournée de 30 nouveautés, dont une sur laquelle je joue pas mal. mal en ce moment, ça s'appelle Fantasian. Fantasian, c'est le nouveau RPG de... C'est un JRPG pur jus, développé par Mistwalker. Donc Mistwalker, c'est le studio qui a été fondé par Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur en fait de la licence Final Fantasy, qui est parti, je crois, juste après le 7 ou le 8, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, il sort un nouveau jeu, un nouveau RPG qui est vraiment une espèce de... dommage, vraiment, enfin là on est complètement dedans, au JRPG plutôt R PlayStation, donc FF7, FF8, ça peut faire penser un peu à Final Fantasy 8. Alors moi je suis pas un énorme spécialiste de Final Fantasy, mais je me suis quand même pris à tomber dedans, parce que il y a vraiment une espèce d'ambiance très presque naïve un petit peu, qui reprend vraiment des codes du JRPG de l'époque, avec surtout une bande son de Nobuo Uematsu, donc le compositeur de Final Fantasy historique, hein, jusqu'au 10, donc avec des musiques absolument formidables. Le battle theme est vraiment un des meilleurs battle themes que j'ai entendu depuis pas mal de temps. Et en fait voilà, et en fait le jeu est, on incarne, attention, originalité, on incarne un héros amnésique. C'est parfaitement original, mais pour le coup je trouve que le jeu s'en moque presque un petit peu, voilà, c'est derrière il y a, et puis surtout derrière il y a plein de scènes. En fait c'est un jeu qui a c'est un petit budget, ça se voit, il y a un moteur 3D, mais il y a pas mal de cutscenes en fait, avec beaucoup de textes qui décrivent ce qui se passe, et par contre des illustrations en 2D très 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 aquarelles qui sont magnifiques. Je sais que l'illustrateur est connu, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, mais c'est un illustrateur japonais très connu qui a fait les illustrations de ces cutscenes, et qui permet en fait notamment de raviver tous les souvenirs du personnage principal. Et ce qui est intéressant, c'est que certes c'est très classique dans le fond, donc avec des combats au tour par tour aléatoires, sauf que quand même il tire parti du support mobile, parce que donc c'est un jeu un peu l'arcade, donc c'est disponible notamment, moi j'y joue sur iPhone. C'est-à-dire que c'est un système de combat au tour par tour plutôt classique, avec les deux camps en face, sauf qu'en fait la disposition des ennemis fait que tu peux régulièrement courber en fait avec ton doigt ton attaque ou ton sortilège pour pouvoir toucher plusieurs ennemis à la fois. Donc en fait il faut passer ton temps à modifier ta trajectoire de tir et tes courbes pour pouvoir optimiser tes coups, tes combats et tes dégâts, et du coup ça donne des combats extrêmement agréables à jouer. Il y a aussi un système en fait où tu peux choisir de ne pas faire les combats quand tu traverses une map, mais d'accumuler en fait les ennemis qui vont aller dans une espèce de, ils appellent ça le dimension, c'est une sorte de pokéball en fait, où tous les ennemis vont aller s'attraper. Sauf qu'au bout de 30 combats évités, bah t'es obligé de déclencher un combat où là tu vas te taper contre les 30 ennemis d'un coup, ce qui t'amène des bonus. Donc tu peux choisir d'aller jusqu'au bout, tu peux choisir évidemment de déclencher le combat au bout de 15 ou de 10 ennemis. Du coup, ça permet de traverser une zone, par exemple, où t'as pas envie de te taper des combats aléatoires, parfois un peu pénibles. Hop, tu actives ce truc-là, et à la fin, tu te fais un gros combat qui va durer un peu plus longtemps. Mais je trouve que ça apporte un rythme hyper intéressant. Donc voilà, c'est vraiment, franchement, si vous aimez les JRPG très à l'ancienne, mais avec quand même quelques bonnes idées, et surtout qui tire parti vraiment extrêmement maline du support tactile, bah, Fantasian, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Et puis je rappelle, c'est voilà, si vous êtes abonné à Apple Arcade, c'est 5 euros par mois, bah vous jouez au jeu, c'est gratuit, il y a pas de microtransactions, c'est le jeu complet, donc c'est une chouette démarche, je trouve, et je suis plutôt content de voir que bah, des studios comme Mistwalker voilà peuvent sortir des jeux comme ça grâce à la politique d'Apple là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est ça fait partie des très bonnes surprises de la dernière fournée de jeux sorti sur Apple Arcade. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin si vous avez joué ou pas.
Bah moi, il faisait partie, en fait, j'ai pas joué du tout parce que je sors très peu de chez moi en ce moment, confinement et tout ça. Mais disons qu'à partir du moment où je vais me remettre à prendre les transports en commun, il y avait deux jeux que je voulais essayer sur Apple Arcade. Ouais. Donc le premier, c'est Taiko no Tatsujin, que j'adore. Ah oui. Pour le côté fun du jeu, sympa, et Fantasian. Donc il fait partie de ma liste de jeux à essayer, j'en ai entendu que du bien. Mmh. Et ce que tu viens de dire, moi, ça me parle, et j'aimerais bien y jouer. Quand j'aurai un peu plus de déplacement. Oui. À la maison, j'aime pas trop jouer.
Ouais, ouais, mais bah, je suis un peu comme toi aussi. Donc là, moi, je vais au boulot deux fois par semaine. Donc j'y joue quatre allers-retours par semaine. Ça me suffit, tu vois. Ou des fois le soir avant de dormir. Mais c'est vrai que c'est vraiment un bon petit jeu. Voilà, je peux pas dire plus, quoi. Donc, Donc voilà, bah, on a fait le tour, je pense, pour nos jeux du moment. Et nous allons passer tranquillement à la dernière partie de l'émission, qui sont les news et rumeurs. Donc là, je vais dérouler pas mal d'actu qui se sont déroulées ces derniers temps. Si vous avez rien à dire, bah, y a pas de souci, mais n'hésitez pas à m'interrompre, hein, pour commenter tout ça. Alors la première info, elle est toute récente, et ce qui est intéressant, c'est que finalement il y aura pas de fermeture des stores en ligne ou PS Store, PlayStation 3 et Vita, prévu cet été. Donc Sony, il y a quelques temps, avait annoncé ça. Ça avait pas mal râlé, parce que voilà, pour ceux qui avaient acheté des gens dématérialisés à l'époque, notamment sur Vita, bon, il y a encore des gens qui jouent sur Vita, hein, mais et sur PS3, bah ils étaient pas très contents. Finalement Sony a fait marche arrière en expliquant qu'ils avaient compris que c'était pas forcément une très bonne idée, donc ils vont garder ces stores là ouverts. Alors j'imagine que ça sera pas encore pendant 20 ans, hein. C'est un sursis, on va dire, qu'on a gagné. Mais au moins, voilà, si vous voulez absolument retélécharger vos jeux sur les PS Store de la PS3 et de la Vita, bah, vous pourrez le faire au moins pendant encore quelques temps. Une autre
actualité, Sophie, pardon. Je t'interromps juste, ça non, pose, enfin, c'est le problème qu'on connaît tous, enfin, de la dématérialisation jeux vidéo. Ouais. Savoir que, enfin, moi, je suis la première à trouver ça génial, les jeux démat, parce que c'est hyper pratique. Mais que, bah, le jour où, voilà, quand c'est disponible sur certains stores, et le jour où ces stores la ferment, mais c'est pareil pour tous les jeux qui dépendent d'un serveur, le jour où le serveur ferme, t'as tout perdu. Donc, on en revient toujours à l'idée c'est de ça. La conservation du jeu vidéo.
Et puis, même, voilà, pour la conservation du jeu vidéo, c'est important, oui.
C'est pareil chez Nintendo, hein, quand là maintenant je crois que le store Wii U et le store DS ils sont fermés.
Ouais, non,
après
c'est,
tu conserves c'est les jeux problème. Tu conserves évidemment les jeux que t'as déjà, encore heureux.
Ouais.
Mais on sait bien que ces trucs là finissent par fermer.
Ouais, mais si Steam fait faillite demain, ouais, et qu'ils ont plus les moyens d'eux, bah
on a tout perdu. Ouais,
beaucoup de jeux de PLA, c'est terrible. Hein.
Ah oui, bah obligé de commencer à rejouer avec des cailloux, hein, si Steam
c'est
s'arrête.
Ça, hein. C'est ça. Non, mais les gens te disent oui, vous pourrez télécharger, il faudra télécharger vos jeux, les conserver sur votre PC. Bah, mais bon, tu vois, tout ça reste du dématérialisé. Alors il y aura tu pourras faire des sauvegardes. Enfin bon, bref, c'est un vrai problème effectivement pour la conservation, comme tu dis, pour le côté historique du jeu vidéo. Un vrai problème.
Mais ça, on le sait, hein. Et là, c'est juste que bah, les premiers stores entièrement démat commencent à être assez vieux pour commencer à fermer les uns après les autres. Et là, ça devient très concret, ce genre de,
ouais, c'est clair.
Ce genre de problème. C'est que le début. Hein.
Ouais.
Ça va être ça partout maintenant. Enfin.
Autre news intéressante, il y a du côté de chez Sony, il y a le studio qui a fait Days Gone, donc qui s'appelle Ben Studio. Il y a eu récemment le directeur créatif du jeu, John Garvin, qui s'est exprimé sur le jeu, et on a appris déjà que ça a été extrêmement compliqué, ça a été un développement long et difficile pendant 6 ans. Tu sens derrière, il a pas dit le mot crunch, hein, mais bon, tu sens qu'il a pas voulu le dire, mais voilà. Et derrière, en fait, il a dit quelque chose d'intéressant qui pourrait beaucoup ouvrir un mini débat, mais voilà, c'était dire dit voilà, parce qu'en fait a priori il n'y aura pas de suite à Days Gone, il y aura voilà, parce que le jeu a bien marché mais sans plus. Et donc lui il s'est un peu emporté en disant mais de toute façon si vous voulez une suite, bah il fallait l'acheter au lancement au prix fort et pas quand il est gratuit, pas quand il est à 5 €, etc. C'est un point de vue que je trouve intéressant d'un point de vue développeur pur, parce que c'est vrai que bah si t'achètes ton jeu 60 €, j'imagine que le développeur va peut-être en gagner un peu plus. En tout cas, ça montrera un enthousiasme un peu plus fort sur le jeu. Après, derrière, on a une réalité économique qui fait que c'est compliqué d'acheter tous les jeux que t'as envie d'acheter au lancement, surtout quand tu vois que maintenant les jeux PS5 sortent des fois à 80 €. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce genre de déclaration. C'est un peu complexe, tu vois, je pense, j'ai un sentiment partagé sur ce genre de déclaration. Je sais pas, Sophie, toi.
Vu qu'on est à la fois des consommateurs, mais qu'on est quand même sensibilisé au métier des professionnels du jeu vidéo, c'est sûr que quand t'es consommateur, t'as envie de payer ton jeu le moins cher possible, évidemment. Et en même temps, autant c'est sûr qu'un triple A, j'aurais zéro scrupule à le choper à moitié prix dans un bac à solde ou j'en sais rien plusieurs années après son sortie, ça je m'en tape. Un jeu indé, on a quand même dans nos, à force, enfin de par le travail, on sait des petits développeurs indés, on en connaît quand même pas mal. Certains sont même parfois des amis. Te dire que ces gens-là ont besoin d'argent. Et que c'est bien, enfin c'est bien beau de mettre les gens en wishlist et tout, mais si tu un jeu qui vaut déjà 15 € de base, c'est déjà pas cher. Non, c'est bah, oui, que comme tu dis, qu'est-ce que tu veux les deux points de vue sont.
Ouais, c'est complexe. Sont, et d'ailleurs, il y a.
Moi, je pense que surtout, ça reflète aussi l'augmentation probable des coûts en développement
sur ces
20 dernières
c'est
années.
AAA, ouais.
Et finalement, les prix qui ont quasiment pas bougé en perspective. Donc, 6 ans de boulot sur Days Gone, s'ils en ont pas assez, bah, ouais, il faut payer quand même tous les gens qui bossent derrière.
Bien sûr. Et d'ailleurs depuis tout ça, il y a une pétition qui apparemment marche pas mal. Alors bon, marche pas mal. On parle de 50 000 signatures, hein, donc c'est peu par rapport à des chiffres de vente, mais pour que finalement Sony envisage de faire une suite à Days Gone, parce que c'est un jeu qui apparemment, enfin moi j'y ai peu joué, mais c'est un jeu qui est pas mauvais du tout quoi. En plus donc et en ce moment alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais il est offert sur le PlayStation Plus. Donc si vous voulez le tester et que vous êtes abonné au PS Plus, vous pouvez le récupérer.
C'est vrai qu'il y a ce genre de système qui est en train de se mettre en place,
bah c'est
par
ça,
les
en fait.
PS Plus,
c'est
les Xbox, Game Pass et tout, des systèmes d'abonnement. Ça, pour le coup, moi, je ne connais pas quels sont les deals qui sont passés avec les développeurs. Parce que si c'est comme Spotify et compagnie, où on sait que c'est surtout l'intermédiaire qui touche plein de fric et puis finalement l'artiste touche que dalle, on continue à développer des systèmes économiques pas ouf, quoi. Je sais pas du tout. J'espère que tous les jeux qui sont sur le PlayStation Plus, le Xbox Game Pass, que c'est des bons deals et qui touchent l'argent qu'ils doivent. Mais si je connaissais des gens qui étaient journalistes jeux vidéo, je leur demanderais d'enquêter là-dessus.
Pourrait peut-être, ouais.
Mais
non, mais moi ce que je sais.
Et Days Gone, en fait. Ouais. Juste pour en revenir rapidement sur Days Gone, il y a la version PC aussi qui va sortir bientôt,
oui,
et je pense que c'est un moyen aussi d'étaler les coûts,
bien sûr,
de donner en fait une deuxième vie au jeu et d'étaler les coûts et d'avoir une opportunité en fait de retrouver du revenu et de la croissance qui peut-être, si le jeu se vend bien, finalement ouvrir la porte à un 2.
Ouais, bah,
et je pense que le futur, à mon avis, des AAA comme ça sur les consoles, les exclus, c'est effectivement de s'ouvrir au PC de plus en plus. Et ça permet, c'est pas une concurrence massive ou vraiment directe, parce que finalement, un joueur console, il préférera sans doute y jouer sur sa console.
Bah, ouais.
Mais par contre. Ça augmente le marché potentiel de manière significative.
Bah, là, tu vois ce que tu dis, ça me fait penser à une autre actu que j'avais pas citée du tout, mais ce qui est un peu plus ancienne, c'est par exemple Death Stranding qui a été une exclu PS4 pendant quelques temps et sorti sur PC. Et récemment, on a appris qu'il avait extrêmement bien marché sur PC. Ça avait été un vrai succès. Il y a eu évidemment Horizon Zero Dawn qui est sorti sur PC aussi. Voilà, les exclus, notamment chez Sony. Alors, Microsoft, c'est déjà de base des jeux exclus console
PC.
Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que Sony envisage de plus en plus ces exclus comme des jeux PlayStation, enfin console PlayStation / PC, donc comme d'habitude, hein, vous jouez sur PC, vous avez tout à y gagner puisque vous jouerez tous les jeux, donc c'est le meilleur truc. Alors on va continuer un petit peu. Alors moi c'est une très bonne nouvelle, ça, je suis très content, puisque les créateurs le studio derrière Celeste, donc Extremely Okay Games, donc mené par Maddie Thorston, a annoncé son prochain jeu qui s'appelle Earthblade. Et alors c'est vraiment un tout petit teasing pour le moment, et ce qui est génial, c'est que pour teaser le jeu, qu'est-ce qu'ils ont publié? Ils ont publié un extrait musical de l'OST du jeu, composé par Lena Raine, donc Lena Raine qui était la compositrice de l'OST de Celeste, qui est une OST absolument magnifique. Donc là ils ont annoncé en fait ce jeu qui sera un jeu d'exploration aventure. Apparemment ça a été très ils ont mis du temps avant de se mettre sur à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils ont créé plus, ils disaient voilà, on a créé 4 prototypes différents avant de trouver vraiment la bonne formule, et on bosse dessus depuis la sortie de Celeste en fait. Et donc là ça y est, on est enfin prêt, on a enfin un proto qui marche, donc on va pouvoir s'y mettre vraiment. Donc clairement le jeu va pas sortir tout de suite, hein. Mais ça fait extrêmement plaisir parce que donc ce studio, ils ont quand même créé comment il s'appelle, Towerfall, qui est juste l'un des meilleurs jeux multijoueurs de la décennie, et Celeste, qui est l'un des meilleurs jeux de plateforme de la décennie. Donc bon, on peut leur faire confiance sur un jeu d'action aventure d'exploration. Ça va s'appeler Earthblade. Alors peut-être que c'est un nom de code, hein, je sais pas, mais en tout cas moi je suis ravi d'avoir des nouvelles de leur prochain jeu, quoi. Ensuite, alors pour un truc un peu plus différent, en parlant un peu de cloud gaming, puisque le Game Pass, donc ce qu'on appelait xCloud aujourd'hui, maintenant qui s'appelle le streaming sur Game Pass, arrive enfin sur PC et sur les appareils iOS. Alors en version bêta, c'est-à-dire que si vous êtes, il y a une possibilité de recevoir des invitations pour tester le service de cloud gaming sur PC Windows 10 et sur téléphone Apple. Alors via en fait une interface web, parce que Apple est un peu pénible là-dessus et ne n'autorise pas en fait des trucs tiers avec des paiements à fonctionner en natif sur des applications. Donc c'est pour ça qu'il y a
surtout pas un truc Microsoft.
Voilà, surtout pas un truc Microsoft. Donc ils vont pouvoir gruger, entre guillemets gruger. Ils ont quand même trouvé une sorte d'accord avec Apple pour pouvoir sortir un quelque chose via une interface web. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça arrive enfin sur PC. Moi, à la limite, c'est plus la version PC de Xcloud qui m'intéresse parce que voilà, jouer à des jeux Xcloud sur un petit laptop, sur un petit PC portable sans carte graphique, ça peut être vachement intéressant. Je sais pas si vous avez essayé le Xcloud, le streaming de Microsoft.
Non, j'ai jamais essayé, mais oui, on voit bien que c'est des nouvelles façons de, j'allais dire, de consommer, mais des nouvelles façons de jouer qui sont en train de se développer. Hein.
Bah oui, ouais,
je pense qu'il y a un avenir très fort en fait derrière ce genre de technologie, et ça aussi, ça limite le besoin de changer de bécane gaming tous les 3, 4, 5, 6 ans.
C'est ça. Après, toutes les marques se lancent dans le streaming de jeux pour l'instant. C'est pas encore, il y a vraiment pas de leader ou de technologie qui se dégage, mais
c'est même l'inverse. Hein,
moi, j'espère juste qu'on va pas.
Vas-y.
Non, j'espère juste qu'on va pas finalement arriver dans un monde en fait où ce sera comme pour le streaming vidéo, où il y aura tellement d'acteurs que ce sera très très difficile de s'y retrouver et de faire son choix.
Ça va. Ça va probablement être ça pendant une étape. Et puis, il y a aussi le truc inverse. Le jour où il y en aura un seul qui aura le monopole et qui dictera sa loi. Qu'est-ce qui se passera entre les deux, quoi. Mais oui, là, on voit bien que c'est en tout cas ce qui est en train de se développer en ce moment.
Ouais, clairement. Et puis, je rappelle que donc ce Xbox Streaming est inclus de base dans l'abonnement Game Pass. Si vous avez le Game Pass, alors je crois que c'est le Game Pass Ultimate, mais vous pouvez jouer à vos jeux de manière offline, tout à fait normale, en téléchargeant. Mais vous pouvez aussi tester une grosse, alors pas l'intégralité du Game Pass, mais une grosse partie des jeux du Game Pass sont jouables en cloud. Aujourd'hui, c'est dispo de base sur Android. Sur les appareils Android, et ça arrive effectivement sur PC et sur iOS. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Petite news, Apex Legends, qui après être sorti sur Switch il y a quelques temps, va débarquer sur mobile lui aussi. Donc voilà, encore un Battle Royale, hein, après Fortnite, après PUBG, Apex arrive sur mobile dans une version apparemment où les contrôles sont entièrement refaits pour le tactile. Il n'y a pas de date de sortie, mais ils annoncent une bêta pour le printemps 2021, donc là maintenant. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Figurez-vous que c'est des projets qui ont une fin d'année compliquée, hein, avec le lancement de Cyberpunk qui a été, on va dire, un petit peu raté. Hein, voilà, je mâche mes mots. Enfin, au contraire, c'est un euphémisme de dire ça. Financièrement, c'est des projets qui va très très bien malgré tout. Cyberpunk, ça s'est quand même vendu à 13 millions d'exemplaires à son lancement, donc c'est un excellent démarrage. Et ils ont annoncé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros pour l'année 2020. Donc comparé à 114 millions pour 2019, donc ils ont un petit peu augmenté leur chiffre d'affaires, et pareil, un bénéfice qui passe un bénéfice qui passe de 38 millions d'euros à 253 millions d'euros, donc pareil, énorme, gros carton. Bah en fait, 2019, c'est vrai que c'était l'année où ils ont pas sorti grand chose à part la version Switch de The Witcher. Alors The Witcher, c'est ce qu'on appelle un long seller, hein, ça s'est vendu sur le long terme, mais je pense que Cyberpunk, quoi qu'on en dise, quoi qu'ait été le lancement, voilà, c'est un jeu qui s'est bien vendu, qui va continuer à se vendre à coup de mise à jour, etc. Voilà, donc c'est financièrement, c'est un studio qui va bien. Après, bon, en interne, il y a énormément de choses à revoir sur la façon dont fonctionnent ces projets. On en a beaucoup parlé déjà, mais en tout cas, de savoir que le studio se porte bien financièrement, c'est quand même une bonne nouvelle, quoi. Par contre, un autre studio qui se porte un peu moins bien, je pense que c'est ceux qui développaient jusqu'à présent le MMO Seigneur des Anneaux, puisque le jeu a été annulé par Amazon. Donc encore un projet de plus annulé par Amazon Studios. Ça se passe pas très bien, hein, Amazon les jeux vidéo. C'était un jeu qui était développé par Athlon Games, qui était un studio en fait américain, donc basé à Los Angeles, et qui était une filiale d'un éditeur chinois qui s'appelait Leiyu Technology, et qui en fait en début d'année a été racheté par Tencent, donc le Tencent, le géant chinois du jeu vidéo. Et apparemment, d'après les infos qui ont été dévoilées par Bloomberg, il y a eu de gros soucis en fait entre Tencent et ce studio, et ils n'ont pas trouvé d'accord en fait qui permet de trouver de bonnes conditions pour poursuivre le développement du titre. Et donc du coup, Amazon a décidé de cutter le projet, d'annuler le projet. C'est un de plus, hein, parce que Amazon, ils ont déjà annulé Crucible, qui était un TPS qui était en développement depuis quelques temps, et ils ont toujours un MMO qui s'appelle New World, qui est qui est un peu, voilà, on sait pas trop où ça en est. C'est un peu compliqué pour Amazon et le jeu vidéo, donc je sais pas du tout comment ça va évoluer, mais bon, encore un projet.
Ouais, peut-être qu'ils se rendent compte que faire du jeu vidéo, enfin, c'est un métier.
C'est un métier. Bah ouais, c'est comme Google, hein. Google, Amazon l'apprend assez dépens, hein, ouais. On va dire ça comme ça, mais voilà.
Mais regardez aussi Microsoft, ça a pris des années pour arriver là où ils en sont, donc c'est voilà. Et je pense que ils ont peut-être, enfin les grosses entreprises américaines ont des fois une vision peut-être un peu court-termiste en disant voilà, bah si on met X dizaines de millions sur un MMO, c'est bon, World of Warcraft est mort.
C'est exactement ça.
En 2021, après, vous la concurrencez World of Warcraft, c'est quand même pas la meilleure idée du monde. Quoi.
Moi,
c'est courageux. Ouais. Ouais.
Moi, je suis pas triste que Amazon ou Google se plantent. Je préférerais que d'autres gens fassent du jeu vidéo. Enfin.
Que
des gens qui eux se lancent parce que tiens, c'est un investissement comme un autre. Ah bah le jeu vidéo, c'est un marché qui vaut tant de milliards, alors on va faire du jeu vidéo. J'ai pas super envie que des gens comme ça viennent, quoi. Enfin,
C'est surtout, que tu disais, Dani, Microsoft a mis du temps, mais c'est vrai que je pense que c'est des gens qui doivent comprendre ce que c'est que faire du jeu vidéo, tu vois, et comment faire ça bien, en fait. L'avantage de ces boîtes, entre guillemets, c'est qu'ils ont les moyens financiers de soutenir des projets, mais il faut qu'ils le fassent jusqu'au bout et qu'ils le fassent bien, quoi. Et pour le moment, t'as l'impression que c'est pas
trop ça.
Faut qu'ils le fassent avec du pognon, enfin, qu'ils filent du pognon à des gens qui le font.
C'est ça, exactement.
C'est tout, quoi.
Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va. Alors, rapidement, Genshin Impact, qui est le carton, hein, MMO, enfin, free-to-play, pardon, gacha, un peu à la Zelda, vous voyez ce que c'est, j'imagine, Genshin Impact. Et ben, il va sortir dans une version optimisée PS5. Voilà, si vous êtes joueur de Genshin Impact sur mobile, et parce que je rappelle que le jeu est cross-platform, donc vous pouvez jouer sur mobile et continuer votre partie sur console, et ben, il va y avoir un patch PS5 qui sortira le 28 avril avec, support de la résolution 4K, des textures améliorées, et des temps de chargement réduits. Donc voilà, un jeu qui avait déjà une bonne gueule à l'époque, hein, enfin même, qui a une bonne gueule aujourd'hui, qui je pense va continuer d'être très très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors un autre jeu. Alors moi c'est juste pour placer ce jeu que j'ai découvert vraiment sur le tard et que j'adore, c'est Sea of Thieves. La saison 2 de Sea of Thieves vient d'être lancée, donc voilà, ce système de saison c'est ni plus ni moins qu'une sorte de battle pass, hein, qu'on achète pour avoir du contenu en plus, des défis en plus, etc. Je sais pas si Sea of Thieves c'est un jeu auquel vous avez joué, parce que moi je sais que c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, et quand je dis sur le tard c'est littéralement il y a 2 mois, et je trouve ça formidable. Enfin, c'est un jeu que j'adore.
Je l'ai pas essayé à l'époque, il m'avait un peu intéressé, mais comme j'avais pas de Xbox, j'ai passé la main.
T'as passé la main.
Moi, c'est un jeu auquel j'ai pas joué, mais je regarde beaucoup de streamers et de streameuses y jouer.
Bien sûr,
je trouve ça très rigolo à regarder.
Ouais, c'est clair que c'est vachement. Enfin, à regarder, c'est génial parce que c'est un jeu qui crée des situations assez folles.
Même si au final,
c'est très drôle. Voilà, tu te marres vraiment beaucoup en jouant à Sea of Thieves. Alors évidemment, ça n'a pas grand intérêt seul. C'est vraiment le fait d'y jouer entre amis et qui crée des. C'est vraiment une machine à souvenirs, en fait. Avec Sea of Thieves, il t'arrive toujours plein de trucs. En fait, c'est un peu toi qui va te créer tes propres histoires, parce que il y a pas d'histoire, il y a pas de scénario vraiment.
Bah, t'es sur ton bateau, tu décides avec tes potes. Bah tiens, moi j'ai une carte qui dit qu'il y a un trésor à cet endroit-là, t'y vas, tu vois ce qui se passe. Voilà. C'est vraiment des générateurs d'aventures, et c'est rigolo, c'est probablement rigolo à jouer, mais c'est aussi très rigolo à regarder.
C'est clair, et c'est un jeu qui vient de très loin, parce qu'au lancement, bah, ça a été vite déserté, c'était pas terrible, et Rare, en fait, a réussi à le maintenir à flot, à le mettre à jour, et aujourd'hui, c'est devenu une espèce de... pour moi, c'est le jeu service de Microsoft, en fait. C'est devenu, d'un côté, t'as Activision qui a les Call of Duty, par exemple, ou ou Apex Legends, tu vois, bah, eux, ils ont Sea of Thieves, qui est un truc qui marche sur le long terme, et c'est vraiment devenu un très bon jeu, donc ça, c'est cool. Quoi d'autre? IO Interactive, les développeurs de Hitman, ils se portent bien aussi, hein. Ils ont bien monté la pente avec les derniers Hitman, et à tel point qu'ils viennent annoncer un nouveau, l'ouverture d'un troisième studio, un studio à Barcelone. Ils avaient déjà un studio, évidemment, à Copenhague, et un studio en Suède, et là, donc, un troisième studio à Barcelone, et ils vont travailler sur une autre licence. On rappelle qu'ils ont Hitman, bien sûr, mais ils travaillent sur un projet James Bond. Je trouve que c'est un match assez génial. IO Interactive sur un projet James Bond, ça peut être très cool. Et une autre licence qui, pour le moment, n'est pas annoncée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, pour terminer, bon, Horizon Zero, on en parlait tout à l'heure, hein, donc depuis, je crois, hier, au moment où on enregistre, hein, Horizon Zero Dawn est gratuit sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc, c'est le pack en plus avec le DLC, donc l'extension. Donc, pareil, c'est vraiment un bon petit jeu, Horizon Zero Dawn. Si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de le faire, vous pouvez vous jeter dessus. Et en dernière news, je voulais vous parler un petit peu d'une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, enfin, sur les services de streaming. Qui montre que forcément 2020, ça, avec les confinements, etc., ça a été une année extrêmement importante pour le streaming de jeux vidéo. Et sans grande surprise, Twitch reste largement premier. Hein, c'est 72% des heures vues. Le deuxième, c'est YouTube Gaming avec 15%. Et le troisième, c'est Facebook Gaming. Voilà, Facebook Gaming existe.
Je savais même pas que ça existait.
Si. Bah, figure-toi.
Moi, je suis dessus 24 heures sur 24, c'est génial.
Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que donc. Twitch a progressé de 16% par rapport au quatrième trimestre 2020. Donc là, je parle des chiffres du premier trimestre 2021. Donc avec 6,3 milliards d'heures vues de contenu visionné. Donc ça paraît énorme. Et Facebook Gaming a vachement progressé aussi puisqu'ils ont passé le milliard d'heures vues. Par contre, YouTube Gaming, lui, est en régression. Donc pareil, YouTube Gaming. Enfin, c'est vrai que quand on parle de streaming, on pense qu'à Twitch, quoi. Enfin, le reste est quasiment invisible. Alors les chiffres le parlent, hein, 72%. Twitch, ils trustent quand même une énorme majorité du marché, quoi. Donc, Microsoft, on rappelle, ils avaient une plateforme qu'ils ont carrément arrêtée. Mais ils continuent, tu vois. Facebook et YouTube continuent malgré tout. Et voilà. Ouais, s'approche. Voilà.
Bah, tu vois, Twitch, c'est même devenu un synonyme de stream, en fait. Tu vois, c'est un jeu que j'ai twitché, ou enfin, c'est des mêmes, tu le dis comme ça, quoi.
Ouais, bah, c'est évident.
Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller faire du streaming sur Facebook.
Sur Facebook Gaming.
Pour moi, Facebook, c'est un truc de vieux.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Donc, j'imagine pas. Peut-être faudrait que je dise que ma mère et ses potes qu'on vont peut-être commencer à streamer du Scrabble ou je sais pas.
Voilà, c'est
mais
ça, c'est ton vieux tonton un peu raciste qui va twitcher des trucs, qui va mettre des trucs sur Facebook Gaming. Tu vois.
Alors, ma partie de solitaire.
Voilà, c'est ça, exactement.
On reprend. Mais après tout, pourquoi pas, hein, mais je t'avoue que je savais même pas que ça existait, quoi.
Bah écoute, voilà, au moins tu as appris quelque chose dans cette émission, ça fait plaisir.
Eh ben voilà, j'en suis ravi.
Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un bon tour d'actu, on a parlé de plein de choses. Merci encore d'avoir été présent dans cette émission. Je pense qu'on a fait une bonne émission. Je suis assez content de ce qu'on a fait, c'était cool. Avant de se quitter, traditionnelle question, je veux savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et en dehors même d'Internet. À commencer par Sophie.
Eh bien, vous pouvez me trouver en dehors d'Internet, dans le magazine JV, voilà. Culture Jeux Vidéo, tous les mois au kiosque. Vous savez, ce papier, les pages qu'il faut tourner, les mots qu'il faut lire, c'est ça. Sinon, sur ZQSD en podcast, tous les mois, avec mon ami Jean-Clébert Loret.
Ah oui.
mais oui, tu sais. Et podcast, alors t'as fait quoi ce week-end aussi, hein, podcast pop culture toutes les deux semaines. Et puis sur Twitter, Force Rose, voilà, vous savez où je suis.
Et t'as même.
Et sinon, le reste du temps, je suis en train de jouer aux Sims.
Voilà ce que j'ai l'air de. Même de temps en temps, tu Twitch là, justement.
Et des fois, je Twitch. Ouais. Et bien maintenant, je vais Facebooker. Ah. Je vais Facebook gaminger, peut-être. Facebooker, je ne sais pas. Facebook non, il y a peu de chance.
Merci Sophie. Daniel.
Et ben moi donc je ne suis pas dans la presse papier, je ne Twitch quasiment pas et en fait vous pouvez me retrouver donc sur Twitter @notdany, NOTDANY.
Formidable, voilà, c'est simple et efficace.
Voilà.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir.
Et toi?
Moi,
on peut t'en
trouver. Oui, c'est vrai qu'on peut me. Oui, on peut le dire. Bah, moi, c'est sur Twitter. Allez, @JKLoret. J'ai tellement l'habitude de le dire. Sur ZQSD, Sophie en a déjà parlé. Sur jeuxvideo.com pour des sujets un peu plus hardware tech. Voilà. Et puis sur Twitter, je leur ai dit @JKLoret. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Ce sera à nouveau moi qui présentera cette émission. Voilà. Parce que, Patrick m'a donné les clés pour deux semaines. Et donc, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. On vous fait de gros bisous. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.